7h, 9h.
Nico Saliagas sur Europe 1.
Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 14 décembre et après la traque, le soulagement à Strasbourg.
Un grand soulagement, moi j'étais un peu pétrifiée, ça me permet de rentrer un peu plus tranquillement chez moi ce soir. Que même si on est un peu dans le soulagement, je pense qu'il ne faut pas oublier les victimes, garder une pensée pour eux, parce que c'est quand même aussi le plus important dans l'histoire.
Sa cavale aura finalement duré 48 heures avant de se terminer dans le sang. Shérif Shekat a été abattu par la police dans son quartier de Neudorf à Strasbourg. Nous y serons en direct dans quelques instants dans le journal de 7h avec Hélène Zellani. À 7h45, les coulisses d'une traque, je reçois Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Comment coordonne-t-on une opération d'une telle envergure? Je lui poserai la question dans un instant. À 8h15, en direct de Strasbourg, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner. Quelles mesures compte-t-il mettre en place pour faire face à la menace terroriste pendant les fêtes? Il répondra aux questions d'Audrey Crespo-Mara. À la une également, le mouvement des Gilets jaunes. Y aura-t-il un acte 5 demain? On en parle avec Jean-Michel Apathy à 7h40. Voilà pour le programme. Toute la rédaction est sur le pont pour vous informer jusqu'à 9h. Bon réveil à tous.
Excellente fin de semaine à l'écoute d'Europe 1. Et bon réveil, il est 7h. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Le journal avec vous, Hélène Zellani, bonjour.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
À la une de l'actualité ce matin.
Après 48 heures de chasse à l'homme, le dénouement. Donc hier soir à Strasbourg, Shérif Shekat, tué par la police, récit et témoignage dès le début de ce journal. La menace terroriste fera-t-elle reculer la mobilisation des Gilets jaunes? Impossible à prévoir. Sur certains barrages, l'ultra-droite est de plus en plus présente. Et puis les handballeuses françaises espèrent se qualifier pour la finale de l'Euro. Elles affrontent les Pays-Bas ce soir à Bercy. Shérif Shekat a grandi dans le quartier du Neudorf à Strasbourg. C'est là que les forces de l'ordre ont perdu sa trace mardi soir après la tuerie du marché de Noël. C'est là qu'il s'est caché et c'est là qu'il est mort hier soir à 21h, récit d'Alain Acco.
C'est l'appel à témoins qui a précipité la fin de la traque. Après la diffusion de sa photo, le terroriste est signalé un peu partout, en Alsace, dans le Jura, dans une voiture en direction de Lyon et même dans un train en Suisse. Autant de pistes qu'il faut vérifier une à une en prenant un maximum de précautions. Mais dans l'après-midi, l'étau se resserre à nouveau dans le quartier du Neudorf où Shérif Shekat a grandi et où il s'est volatilisé l'autre soir. Une habitante a repéré un homme blessé au bras qui ressemble au fugitif. Aussitôt, c'est le branle-bas de combat. Hélicoptère dans le ciel, raid et BRI dans les rues. Opération spectaculaire et bruyante. Mais en début de soirée, fin du déploiement de force. Un dispositif de surveillance plus discret reste néanmoins activé. Un hélicoptère continue de survoler la zone avec une caméra thermique. Tout va se jouer en fait 1 kilomètre plus loin, aux abords d'une zone industrielle et du stade de la Méno. Vers 21h, une patrouille aperçoit un suspect correspondant au signalement, anorak noir et capuche en fourrure. Les trois policiers tentent de l'interpeller, mais l'homme se retourne et leur tire dessus. Riposte immédiate au fusil d'assaut. Shérif Shekat s'écroule, mortellement blessé. On retrouvera près de lui le vieux revolver modèle 1892 avec lequel il avait semé la mort 2 jours plus tôt dans les rues de Strasbourg.
Alain Acco, Christelle habite rue du Lazaret, elle a assisté à la scène depuis son appartement.
Il y a eu une rafale de tir, quoi. Et donc on a vu un policier mettre en joue du côté, vers notre côté, si vous voulez. On a voulu ouvrir pour regarder et puis il y a la police qui nous a dit de fermer quasi tout de suite les fenêtres et les volets, en fait. On avait de toute façon éteint les lumières et tout quand on a entendu la fusillade, là. Il y a eu 5-6 tirs d'affilée, comme ça. Et donc, on voyait leurs lampes torches qu'ils avaient sur les fusils. Et après, on a suivi un peu les informations. C'est là qu'on a entendu qu'ils l'avaient abattu, en fait.
Un témoignage recueilli par Pauline Jacquot pour Europe 1. Le groupe État islamique a revendiqué l'attaque hier soir, affirmant que Shérif Shekat était l'un de ses soldats. On part maintenant à Strasbourg où nous attend Arthur Elmbaché, une ville qui se réveille soulagée. Arthur, après 48 heures de stress et d'angoisse, vous êtes sur la place Broglie au milieu du marché de Noël qui va rouvrir tout à l'heure.
Oui, et une place Broglie et Strasbourg qui revivent. C'est le retour ici, Hélène, des odeurs de vin chaud, de cannelle qui avaient disparu depuis 48 heures. Ça peut paraître anecdotique, mais c'est important ici. J'ai en face de moi les cabanes en bois de ce marché de Noël. Et derrière moi, il y a l'opéra. Raymond y a chanté hier soir. La nouvelle de la neutralisation du terroriste est tombée pendant l'entracte en remontant sur scène pour le troisième acte. Il a vécu un moment fort, dit-il. Il a ressenti, il a vu, si on peut dire, l'apaisement collectif des Strasbourgeois.
J'ai senti comme un soulagement, une décontraction dans la salle, et puis pour nous aussi, toute l'équipe technique, les chanteurs, tout ça, on était soulagés. Bah oui, parce qu'une espèce d'épée de Damoclès, vous vous baladez dans la ville, voilà, on avait ça au-dessus de la tête quand même.
Ça fait 2 jours qu'on se regardait tous en chien de faïence, m'a dit à l'instant une jeune femme, qu'on se méfiait de tout et n'importe quoi. C'est terminé, dit-elle, et ça fait du bien.
Moi, je suis super contente, oui, il ne faut pas se le cacher. J'espère que les victimes reposent en paix et que les familles peuvent trouver le deuil et voilà.
Je me suis recueillie là, à la place Kébert. J'ai mis une petite bougie pour faire une petite prière. Peut-être le marché va rouvrir de nouveau.
Il rouvre aujourd'hui.
Ah, maintenant en espérant qu'il y a plus de sécurité.
Plus de sécurité, c'est prévu, avec par exemple moins de points d'entrée dans le marché de Noël pour concentrer les effectifs de sécurité. Mais le dispositif reste globalement le même. Il n'est pas question, parce que ça générerait des files d'attente immenses, de fouiller intégralement 100% des centaines de milliers de visiteurs.
Arthur Helmbaché en direct de Strasbourg pour Europe 1. Cette nuit, Emmanuel Macron a remercié sur Twitter l'ensemble des services mobilisés, policiers, gendarmes et militaires. Notre engagement contre le terrorisme est total, écrit le président. Quant à Laurent Wauquiez, le président des Républicains, toujours sur Twitter, il a résumé ainsi la situation. Un terroriste en moins, merci aux forces de l'ordre. Un repas est 7h05.
Et l'attaque de mardi soir a coûté la vie à 3 personnes, 13 autres ont été blessées.
3 sont toujours entre la vie et la mort. Les nouvelles sont en revanche plus encourageantes pour Jérémy, un musicien de 28 ans touché à la carotide. Son père, Paul Raoult, a découvert la mort du terroriste à la télévision. Écoutez sa toute première réaction.
C'est ni un soulagement, ni une tristesse. Quelles que soient les choses qu'il a fait, on ne peut pas se réjouir de la mort d'une personne. Mais ma foi, c'est son choix, visiblement. Il a tiré le premier, eh bien, pour qu'on lui tire dessus. Maintenant, je trouve ça un peu dommage pour les victimes. Je pense que s'il y avait pu y avoir un procès où il y aurait eu des mots mis sur ce qui s'est passé, les victimes auraient pu entendre et auraient pu être reconnues par une instance comme la justice en tant que victimes. Là, il peut leur manquer quelque chose pour terminer cette histoire, pour tourner la page.
Le père d'un des blessés du marché de Noël, joint pour Europe 1 par Rémi Botsaron. 5 proches de Chérif Chekat sont toujours en garde à vue.
Et à 7h45, on viendra justement sur cette affaire avec l'ancien négociateur du RAID, Laurent Combalbert. 8h15, lance le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera l'invité d'Audrey Crespo-Mara.
Europe 1.
Dans un instant, la suite du journal, des membres de l'ultra-droite infiltrés sur certains barrages de gilets jaunes et les handballeuses françaises qui espèrent se qualifier pour les demi-finales de l'Euro. C'est juste après ça. Tout de suite, bon réveil.
Il est 7h08, votre matinale info, Nico Saliagas.
Le journal d'Hélène Zellani avec ce dilemme des gilets jaunes sur la poursuite du mouvement en pleine menace terroriste.
Le gouvernement leur demande d'être raisonnable, de ne pas manifester demain à Paris. Hier à Avignon, un gilet jaune a été tué par le conducteur d'un camion qui a forcé un barrage. Nathalie Chevant s'est retournée sur ce barrage où on n'a pas du tout l'intention de relâcher la pression.
Ils font partie des irréductibles, ceux qui tiennent encore les ronds-points la nuit avec leurs gilets jaunes. Max a vu l'un de ses soldats, comme il dit, se faire écraser par un camion. Pour autant, il continue.
On s'est jeté sous un camion parce qu'il ne fallait pas qu'il passe. On était 4 devant le camion. Ça aurait pu être moi. Et en fait, je ne peux pas lâcher. Et moi, j'ai 50 bonhommes derrière moi. Et on ne lâchera pas.
Une radicalisation qui divise, avec aussi des éléments qui viennent se greffer, une politisation de l'action dénoncée par Olivier, gilet jaune historique.
C'est l'ultra-droite ici qui essaye de régner en maître et nous on monte un front, c'est-à-dire que nous maintenant on va s'opposer à cette ultra-droite qui vient ici, qui récupère et qui profite des gens. Et le problème qu'on a sur ces ronds-points, c'est qu'il n'y a aucune sécurité, quoi.
Pas vraiment de leader, effectivement, avec plus de violence, comme en témoigne Philippe. Son restaurant a été en partie saccagé.
C'est pas des gilets jaunes, c'est pas du tout ça. Ben, vous avez qu'à voir le rond-point comment il est, dans l'état où il est, ben, ça prouve déjà un état d'esprit, quoi. J'ai l'impression que c'est des zadistes, c'est tout et n'importe quoi. Ils se sont créés une vie à travers ça. Ils sont violents, ils sont agressifs. Moi, j'ai pas de gilets jaunes sur ma voiture. Et donc, on est mal vu parce qu'on n'a pas les gilets jaunes. Et je trouve que c'est pas normal.
Et l'occupation des ronds-points ou des péages continue, avec l'intervention de plus en plus systématique des forces de l'ordre. Avignon, Nathalie Chevance, Europe 1.
Et pour tenter d'apaiser les gilets jaunes, Emmanuel Macron a annoncé plusieurs mesures sociales qu'il va bien falloir financer. Le gouvernement a rendu sa copie, selon les informations d'Europe 1, sur les 10 milliards à trouver, environ la moitié sera financée. Soit par des économies, soit par de nouvelles recettes. Le reste alourdira le déficit. Anne-Laure Jumet, vous nous révéliez hier matin le report de la baisse de l'impôt sur les sociétés. C'est confirmé, mais d'autres mesures vont toucher les entreprises.
Pour financer les mesures sur le pouvoir d'achat, l'État va en effet chercher quelques milliards d'euros du côté des entreprises. Elles devaient bénéficier, au 1er octobre 2019, d'une baisse des cotisations patronales pour les salaires au niveau du SMIC. Eh bien, elles devront attendre un peu. La mesure sera décalée au 1er janvier 2020 et ça permet de faire 1 milliard d'euros d'économie. Le gouvernement a aussi l'intention de taxer les GAFA, les Google, Apple, Facebook, Amazon, même s'il doit y aller seul et qu'il n'y a pas d'accord au plan européen. Alors là, le gain est difficile à chiffrer, mais il est estimé à 500 millions d'euros. Les niches fiscales sont aussi regardées de très près. Et là, Bercy entend faire des économies sur ce qu'on appelle la niche Copé, un dispositif qui permet de payer moins d'impôts lors de la vente d'une filiale. Voilà pour les efforts demandés aux entreprises. Mais l'État devrait aussi prendre sa part. Alors là, c'est beaucoup plus flou. 2 à 3 milliards d'euros d'économies sont programmés sur les dépenses de fonctionnement de l'État, sans plus de détails. Quand on demande des précisions à Bercy, on n'a pas de réponse. Or, on ne voit pas comment on trouve ces milliards, explique-t-on un brin désabusé dans les rangs de la majorité.
Anne-Laure Jumet. La CGT appelle à une journée d'action aujourd'hui pour demander des hausses de salaire. Pas de perturbation en vue pour le trafic SNCF et RATP, sauf pour certains TER en région et en Ile-de-France sur la ligne B du RER.
Sport, les handballeuses françaises visent désormais la finale du championnat d'Europe.
Mais pour se qualifier, il faudra d'abord battre les Pays-Bas ce soir en demi-finale à Bercy. Un rendez-vous que les Bleus attendent avec impatience, Christophe Lamar.
Elles n'ont pas encore réussi à poser le pied sur le terrain et pour cause, la Bercy Arena n'était toujours pas prête hier soir, qu'importe. Les Bleus ne parlent que de ça depuis deux jours. Jouer une demi-finale européenne devant 14 000 personnes, du jamais vu pour Estelle Nzeminko, la meilleure joueuse française, trépigne.
On savait que si on arrivait à ce point-là de la compétition, on jouerait dans cette salle-là, chez nous. Donc, hâte, vraiment.
Même chose pour l'ailière Manon Ouette. Bercy, c'est un beau cadeau.
Non, mais on joue à Bercy. Moi, perso, c'est un rêve. J'ai jamais joué à Bercy et j'ai très, très, très hâte de retrouver le public parisien.
Jouer à Paris, un pacte qui a soudé les Françaises depuis le début. Le sélectionneur Olivier Crumbles, lui, voit encore plus loin.
C'est une reconnaissance pour le handball féminin, mais pour les femmes. Et handballeuses françaises, c'est les femmes qui réussissent. C'est une compétition pour les femmes. Donc il reste encore des billets, il faut venir, il faut laisser les enfants à monsieur pour une fois, il faut venir avec les copines et il faut remplir Bercy.
10 000 billets sont déjà vendus, il reste encore 4 000 places pour aller encourager les Bleus ce soir face aux Pays-Bas.
Christophe Lamar, vous avez compris, on laisse les enfants à monsieur alors.
Voilà. Bon réveil à tous, c'était le journal d'Hélène Zelani.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 7h12, souriez, c'est l'édito éco avec Région Job. Des milliers d'entreprises recrutent près de chez vous. Retrouvez-les sur regionjob.com. Et l'édito éco, c'est avec Nicolas Barré, Nikos.
Nicolas Barré, directeur de la rédaction du journal Les Échos. Avec ce tournant important pour l'Europe, la Banque Centrale Européenne a décidé de mettre fin à son programme de soutien à l'économie qu'elle menait depuis 3 ans.
Oui, il faut savoir que depuis 2015, la Banque Centrale Européenne, la BCE, soutient à bout de bras l'économie en rachetant chaque mois des dizaines de milliards d'euros de dettes des États, de la France, de l'Italie, etc. Alors en quoi ça aide l'économie? Bien, c'est très simple. La différence entre vous, Nikos, et une banque centrale, c'est quoi? C'est que quand vous achetez quelque chose, Nikos, c'est avec de l'argent que vous avez gagné, pas avec des billets que vous avez fabriqués dans votre cave.
Ils ont la planche,
en principe. Mais quand la Banque Centrale achète quelque chose, c'est avec de l'argent qu'elle crée. Ça fait toute la différence. Elle crée des euros et depuis 2015, donc, la BCE a acheté 2600 milliards d'euros d'obligations d'États européens, français, allemands, italiens, etc. À qui les a-t-elle achetées? Bien aux banques européennes, du coup, qui ont pu prêter cet argent à leurs clients à des taux d'intérêt de plus en plus bas. Et si vous empruntez aujourd'hui à 1,5%, par exemple, pour acheter un logement et pas à 3% ou à 5%, eh bien, c'est grâce à cette politique de la BCE.
C'est grâce à la BCE. Donc la BCE arrête d'imprimer des planches, en fait, mais pourquoi?
Et pas parce qu'elle considère qu'elle a atteint son but. À l'époque, en 2015, il fallait éviter l'effondrement de l'économie européenne qui était menacée de déflation. C'est le cas aujourd'hui, ça a réussi. Sans cette politique, d'ailleurs, la croissance serait à zéro aujourd'hui. Or, elle est à peu près à 2%. Et puis d'autre part, la BCE estime que sa politique de rachat de dettes des pays européens ne pouvait pas continuer comme ça indéfiniment parce que ça n'incite pas les États à faire attention à leurs comptes. Alors, est-ce que l'arrêt de cette politique signifie que les taux d'intérêt vont grimper en flèche? Je vous rassure, non, pas tout de suite. Les taux d'intérêt, y compris immobiliers, vont rester très bas encore longtemps. La BCE y veille parce que les risques économiques n'ont pas disparu et la moindre hausse de ces taux d'intérêt aurait des conséquences catastrophiques, notamment dans un pays surendetté comme la France.
Merci Nicolas Barré. L'édito Éco, c'est tous les jours à 7h10 sur Europe.
Mais à 7h14, on retrouve Carole Ferry en direct sur le terrain, Nikos.
Carole Ferry, vous êtes où ce matin, ma chère Carole?
Eh bien, je suis dans un petit village du Tarn, et vous ne le savez sans doute pas, mais c'est ici que sont fabriquées les boules de Noël qui illuminent les Champs-Élysées, qui ornent la féerie de Noël à Venise.
Celles qui n'ont pas été cassées.
Dior, Chanel, exactement, tout à fait. Dior, Chanel sont aussi des clients réguliers. Et ici, à Blaye-les-Mines, eh bien, ce sont des personnes handicapées qui fabriquent ces boules de Noël. Toutes les finitions sont réalisées à la main, par Xavier et Yvette.
C'est super fier, quoi. Ouais, on te dit, tu fais du travail et c'est reconnu dans le monde entier. Okay. Quoi.
Moi, c'est pareil, tous les matins, je me lève à 6h pour aller travailler. Je suis fier de travailler.
C'est-à-dire, on est là pour quelque chose au moins. Ça, moi, j'adore ça. En plus, nous, les personnes handicapées, on a du mal à trouver du travail. Donc c'est Noël et moi tout est beau, tout est illuminé, et tu te dis là t'as fait du beau travail quoi.
Ah là, l'amour du travail bien fait. Ils sont combien de salariés au total, Carole?
Une quarantaine, et surtout Nikos, c'est la dernière usine en France à fabriquer des boules de Noël en plastique. Avant vous aviez aussi des guirlandes, tout un arsenal de décorations. Mais la concurrence chinoise a fait des ravages, les ateliers ont fermé les uns après les autres. Il ne reste donc plus que ces boules de Noël, mais quasiment un métier d'art. Hein. Imaginez, il faut 4 heures rien que pour les vernir, mais c'est notamment ce qui fait leur succès. Je vous emmène tout de suite dans l'atelier avec la responsable de production, Marina Saint-Paul.
C'est ici qu'on vernit les boules, qu'on leur donne aussi ce côté brillant qui nous est très caractéristique.
Ça fait un peu miroir, on se voit dedans en fait. Hein.
Tout à fait, on se voit dans la boule. Normalement, c'est un reflet qui est très caractéristique au verre et qu'on arrive à reproduire sur du plastique. Et c'est ce qui fait la réputation de nos boules. La boule de verre, on la tombe, elle n'existe plus. La boule plastique, on la tombe, elle rebondit et puis on la remet dans le sapin.
On peut essayer ?
On peut essayer.
Elle rebondit vraiment.
Tout à fait, c'est des boules qui rebondissent, c'est pour ça qu'on dit qu'elles sont incassables.
Et figurez-vous, Nikos, que même les attaches qui permettent d'accrocher les boules au sapin sont aussi incassables. Et ne croyez pas que ce soit anodin, parce que l'une des clientes que j'ai rencontrées sur place m'a expliqué que c'était essentiel quand elles sont dans des lieux publics, comme les Champs-Élysées, mais surtout à portée de petites mains d'enfants.
Évidemment, oui. Les miens ont déjà cassé les miennes.
Et ben voilà.
Vraiment, vraiment. Carole Ferry.
Vous voyez où il faut aller les chercher.
Évidemment, mais mettez une petite caisse de côté. Voilà. On va décorer la rédaction d'Europe 1. C'est Carole Ferry que vous venez d'entendre sur Europe 1, en direct depuis la fabrique des boules de Noël à Blaye-les-Mines dans le Tarn. Vous êtes tous matin, c'est une rubrique quotidienne à 7h12 sur Europe 1.
Europe 1. Et il est 7h17, restez avec nous sur Europe 1. À suivre, Nikos Aliagas.
Lundi, dans son allocution, Emmanuel Macron avait souhaité que les entreprises puissent verser des primes de fin d'année à leurs salariés. Alors depuis, certaines grandes entreprises s'y sont engagées, ils veulent jouer le jeu, mais beaucoup de PME s'inquiètent, car toutes n'ont pas les moyens de le faire. Y aura-t-il des primes cette année sous le sapin pour tout le monde? Enquête à suivre dans Europe 1 va plus loin.
7h-9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Et nous avons une très bonne nouvelle pour vous, chers auditeurs. Jeudi prochain, le 20 décembre, Europe 1 vous invite à inaugurer ses nouveaux locaux à Paris, rue des Cévennes. Nous vous invitons à assister à la matinale spéciale, votre matinale, Nikos Aliagas, dans le nouveau studio Belmar, et on vous offre votre séjour, transport et hôtel. Pour jouer, c'est très simple. Envoyez dès maintenant Nikos, N-I-K-O-S, par SMS au 739-21, 75 centimes plus le coût du SMS. Deux SMS pour jouer ou vous nous appelez au 39-21, c'est 50 centimes par minute. On vous attend et on vous souhaite évidemment bonne chance. Il est 7h19, les principaux titres de l'actualité à retenir ce matin, Nikos Aliagas.
Après l'angoisse, le soulagement à Strasbourg. Chérif Chekat a été tué par la police hier soir. Et ce matin, à 8h15, le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera en direct sur Europe 1, depuis Strasbourg, au micro d'Audrey Crespo-Mara. Le groupe islamique revendique l'attentat de mardi soir. Il affirme que le terroriste était l'un de ses soldats. Le marché de Noël rouvre ce matin. À 7h45, mon invité sera un ancien du GIGN. Ford écarte l'offre de reprise de l'usine de Blanquefort en Gironde. L'avenir de 850 salariés est en jeu.
Europe 1.
Vous êtes sûrement très nombreux ce matin à vous poser cette question. Vais-je avoir une prime exceptionnelle à la fin de l'année? Emmanuel Macron a en effet suscité beaucoup d'attentes en exhortant, en début de semaine, les entreprises à le faire. Le service économique d'Europe 1 a enquêté. Bonjour Maud Descamps.
Bonjour Nikos, bonjour à tous.
Alors Maud, on entend depuis plusieurs jours les annonces de la part de grosses entreprises pour verser des primes. Est-ce que tous les salariés vont y avoir droit?
Alors la réponse est clairement non. Nous avons contacté plus de 200 entreprises. Nous avons appelé les principales fédérations de chaque secteur économique. Et ce qu'il en sort, c'est qu'une quinzaine de sociétés ont déjà arrêté un dispositif de prime, une soixantaine d'y réfléchir et attendent d'en savoir plus, et toutes les autres bottes en touche.
Maud, les entreprises qui jouent le jeu ont déjà communiqué, il y a Total, Altice, il y a LVMH, est-ce que vous pouvez retrouver la liste sur europe1.fr d'ailleurs, chers auditeurs, mais est-ce qu'il y a des nouveautés?
Alors oui, par exemple, la Fédération française de l'immobilier qui va appeler aujourd'hui ses 9000 entreprises adhérentes à verser une prime. Généralement, ceux qui ont répondu à l'appel d'Emmanuel Macron considèrent que c'est un devoir, c'est ce que nous a dit le patron d'Orange, Stéphane Richard.
Moi, j'ai estimé que l'État d'Orange nous imposait de le faire. On l'a ciblé sur nos salariés qui ont les revenus les plus modestes, en dessous de 2500 euros par mois. Il y a d'autres entreprises qui sont engagées à le faire. Toutes ne le feront pas, mais toutes celles qui peuvent le faire doivent le faire, à mon sens.
Là, on parle, Maud, d'entreprises qui ont de gros moyens quand même.
Et oui, ce qui ressort de notre enquête, eh bien, c'est qu'il y a une France à deux vitesses, ceux qui font de très gros bénéfices, et les autres, le PMU par exemple qui a fait une mauvaise année, nous a clairement dit nous n'avons pas les moyens de verser une prime. Dans la grande distribution, il y a eu un impact très fort des gilets jaunes. Chez Système U par exemple, eh bien, certains magasins ne pourront pas verser de prime. Chez Carrefour, on soutient l'idée mais avec 115 000 salariés, eh bien, c'est lourd à porter, nous dit-on.
Et que vous répondent les patrons des petites et moyennes entreprises que vous avez contactées ?
Alors, il y en a qui sont partants. Hein. Je vous prends un exemple. La moutarderie Fellow à Beaune, 22 salariés. Et on nous dit, on n'est pas contre l'idée, mais tout dépend évidemment des modalités. Et c'est la réponse en fait, hein, qui est revenue à chaque fois. Selon le président de l'UDP qui représente les artisans, eh bien, seulement 10% des entreprises du secteur seront en mesure de verser une prime. C'est le cas d'Antoine, il a 15 employés, son entreprise dans la restauration a 10 ans, mais il va peut-être devoir licencier l'an prochain. Donc pour lui, une prime est complètement exclue.
C'est pas l'État qui doit nous dire si on doit donner une prime ou pas. Moi, je pense que c'est pas forcément très valorisant pour les salariés et pour l'équipe. Ce qu'on préfère, c'est de valoriser le succès. Donc, on donne une prime quand on a vraiment eu un succès d'entreprise.
Maud, certains disent que ce qui va être donné d'un côté sera forcément repris de l'autre. Vous, vous en pensez quoi ?
Il faut être lucide. Hein. Ce geste va forcément avoir un coût conséquent pour les entreprises, même les plus grosses, comme par exemple le groupe de chimie Solvay. Son DRH, Jean-Christophe Sibéras, est très clair à ce sujet.
Hein. On a proposé 600 euros pour 4000 non-cadres, c'est-à-dire les trois quarts des effectifs. Une prime comme ça, oui, ça fait quand même 2,5 millions d'euros. On n'avait pas prévu de la dépenser. On va faire un effort, c'est sûr. On fera des moins de dépenses sur autre chose. L'argent tombe pas du ciel. De toute façon, les entreprises, il faut bien qu'elles trouvent l'argent quelque part.
Alors, du côté des syndicats, on ne l'entend pas de cette oreille. Hein. Les représentants des salariés comptent bien profiter de ce contexte où l'on demande aux entreprises de faire plus pour négocier plus durement les négociations annuelles obligatoires. Surtout qu'ils craignent eh bien, que les entreprises utilisent cette prime défiscalisée comme un prétexte pour se montrer moins généreux dans les augmentations de salaire classiques. Et de sources proches du MEDEF, eh bien, on s'attend à ce que les négociations soient beaucoup plus tendues que d'habitude. Les salariés vont demander une meilleure répartition des richesses et donc des hausses de salaire collectives beaucoup plus conséquentes. Un exemple, une grande banque de la place de Paris a d'ailleurs, cette année, décidé de procéder à une augmentation collective après 6 ans de gel parce que, disent-ils, eh bien, on a pris conscience qu'il était temps de redistribuer après s'être serré la ceinture.
Merci Maud Descamps et merci à l'ensemble du service économie d'Europe 1. Et on l'a bien entendu, les salariés des petites entreprises seront les laissés pour compte vraisemblablement de cette prime exceptionnelle de fin d'année. Europe 1 va plus loin, c'est tous les jours à 7h20.
Et si vous souhaitez réagir, faites-le par téléphone au 3921 ou sur les réseaux sociaux avec le hashtag Europe 1.
Europe 1.
Il est à suivre l'innovation du jour avec Anissé Mbida. Le débat est ouvert sur l'utilisation du cannabis thérapeutique. Eh bien, figurez-vous qu'on a peut-être découvert une plante avec les mêmes bénéfices, mais sans l'effet euphorisant. À quoi ça sert ? Réponse avec Anissé juste après ça. Bon réveil à tous.
Il est 7h25.
Retrouvez l'innovation du jour avec EDF.
Et avec Anissa Mbida, Nikos Aliagas.
Alors les experts plaident pour une légalisation du cannabis médical, notamment pour traiter certaines pathologies. Mais Anissa, vous nous dites ce matin qu'on a peut-être trouvé mieux une autre plante avec les mêmes propriétés, mais légale cette fois. Expliquez-nous la nuance.
Oui, jusqu'ici on pensait qu'il n'y avait que le cannabis qui possédait du THC. Le THC, c'est cette fameuse substance qui rend euphorique, qui fait planer, mais qui a aussi de grandes qualités pour calmer les douleurs et réduire les inflammations. Et bien les scientifiques de l'Université de Berne en Suisse ont découvert qu'une mousse avait un composant similaire au THC.
Ça s'appelle comment ?
Cette mousse s'appelle la radula, si vous voulez en trouver. Il faut aller au Japon, en Nouvelle-Zélande ou au Costa Rica.
On va y aller, là, direct.
mais cette mousse, rassurez-vous, elle a beaucoup moins d'effets psychotropes et de meilleure qualité inflammatoire que le cannabis. Et ça intéresse énormément les médecins, parce que ça veut dire qu'on a peut-être trouvé un substitut légal au cannabis quand on veut l'utiliser justement à des fins thérapeutiques.
D'accord, mais si c'est similaire, Anissé, ça pourrait finir par être interdit.
Je vois que vous êtes intéressé, mais non, il n'y a aucune chance que ce soit intéressé.
Je ne suis pas dans le stupéfiant.
La concentration est beaucoup plus faible et l'effet euphorisant est 10 fois moins fort. Donc, il n'y a vraiment aucun intérêt à se faire un joint avec cette petite mousse. Ouais. En revanche, ça va libérer la recherche. Aujourd'hui, il y a pas mal de contraintes, même quand on a le droit d'utiliser le cannabis pour des raisons médicales. Donc avec les mousses, ça sera beaucoup plus simple de développer des nouveaux traitements.
Qu'est-ce que ça veut dire qu'il va y avoir des compétitions entre la mousse de radula et le cannabis?
Oui, peut-être.
Parce que c'est l'industrie maintenant, dans plein de pays, ça fonctionne.
Ah oui, peut-être. Et c'est tant mieux, parce que beaucoup de gens qui ont, pour qui les antidouleurs traditionnels sont beaucoup moins efficaces que ceux à base de cannabis. Donc aujourd'hui, il y aura d'autres options et c'est tant mieux. Et c'est tant mieux parce que justement, hein, comme vous le disiez, il y a une compétition aujourd'hui pour essayer de développer ces nouveaux médicaments, ces nouveaux traitements à base de substituts. Et donc, on a une option supplémentaire.
Donc, ce sont des anti-inflammatoires qui ne sont pas chimiques, en fait, ce ne sont pas des molécules. Je vous conseille aussi la cryothérapie. Si vous avez des douleurs aux genoux, aux articulations, faites de la cryothérapie, 4 minutes, moins 100 degrés, vous ressortez.
Gelé.
Oui,
gelé, mais soulagé.
Voilà, moins mal, moins mal. Anissa Mbida, l'innovation qui n'en fume pas, c'est tous les jours. À 7h25.
Dans un instant, le journal de Céline Kallmann, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol-Nicos.
À propos de cryothérapie,
oui, on est dedans là.
On a froid dehors, mon cher Laurent Cabrol.
C'est hallucinant, effectivement. Vous avez froid en ce moment vers Luxeuil, vers Nevers, moins 8 degrés. Vous voyez que la cryothérapie, on n'en est pas très loin.
Ouais.
Moins 5 à Langres et Château-Chinon. À Auxerre et à Poitiers, moins 4, moins 3 à Lille, moins 2 à Caen, moins 1 à Lyon et Paris, 0 à Cognac, etc. 5 à Bordeaux et 7 à Toulouse. La règle aujourd'hui, c'est un ciel souvent dégagé. Donc c'est une journée plutôt agréable. Je vais vous détailler un tout petit peu les exceptions. Le Pays Basque, le Midi-Pyrénées, ou le Piémont-Pyrénéen, les Golfes du Lion, les Cévennes et la Corse. Il pleut vers Carcassonne, Tarbes, Perpignan, Saint-Giron. Donc ce sont des endroits où il pleuvra encore un peu ce matin dans toutes les régions que je viens de citer, dans la vallée de la Garonne également. Des pluies qui vont cesser dans l'après-midi pour laisser place aux éclaircies, mais ce seront les régions les moins gâtées. Partout ailleurs, c'est un soleil d'automne. Attention, n'espérez pas, on n'est pas là pour bronzer.
Évidemment.
Soleil d'automne. Et dans le courant de la journée, vous verrez que ce ne sera pas trop désagréable, mais il continuera de faire froid. Entre moins 1 et plus 9 degrés, 2 à Paris, 3 à Lyon par exemple, et 6 degrés à Bordeaux.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure.
À suivre Nicolas Aliagas.
Le mouvement des Gilets jaunes, acte 5 ou épilogue? On posera la question à Jean-Michel Apathy dans moins de 10 minutes. 7h45, on va revenir sur la traque et la neutralisation hier soir du terroriste de Strasbourg, Chérif Chekat, avec mon invité, ancien négociateur du RAID, Laurent Combalbert. Bon réveil à tous sur Europe 1.
Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 décembre, il est 7h30.
7h, 9h. Nikos Aliagas sur Europe 1.
7h30, Céline Kallmann en studio. Bonjour Céline.
Bonjour Nikos, bonjour à tous. L'ennemi public numéro 1 tué après 48 heures de traque, Chérif Chekat a été neutralisé dans le quartier du Neudorf à Strasbourg. Les habitants ont vécu pendant 2 jours en entendant les rotations des hélicoptères et en voyant des voitures de police un peu partout. Ils vont pouvoir souffler ce matin, c'est la fin de l'angoisse pour Abdel, habitant du quartier.
C'est un soulagement, vraiment, c'est vraiment du soulagement parce que savoir que pendant 2 jours, on est bloqué chez nous, on va pas sortir, on doit faire gaffe si on sort. À un moment, c'est pesant. Et de savoir qu'il a été abattu, c'est vraiment un soulagement. Le jour même, à l'heure même où ça a commencé les attentats, je devais aller chercher un pisseur, du coup j'y suis allé. Mais en revenant, je suis allé en courant. Je suis allé en courant pour rentrer chez moi, parce que je me suis dit peut-être qu'il est dans les parages. Et en rentrant 5 minutes après, j'apprends qu'il est dans le Neudorf, donc juste à côté de chez moi.
Abdel avec Mathieu Bock pour Europe 1.
Et c'est une habitante qui a repéré le terroriste et l'a signalé à la police aussitôt, qui est intervenue.
Emmanuel Macron a remercié l'ensemble des services mobilisés. Désormais, l'enquête va évidemment devoir déterminer si Chérif Chekat a bénéficié de complices. En tout cas, peu après l'annonce de sa mort, l'État islamique a fait savoir qu'il faisait partie de ses soldats. Écoutez les explications de Jean-Charles Brizard. Il est le président du Centre d'analyse du terrorisme.
On voit bien que l'État islamique a attendu la mort de l'individu pour pouvoir revendiquer, parce que il était possible évidemment que l'individu perpètre d'autres actes de terrorisme avant de mourir, comme ça a été le cas. Bien sûr, cette revendication ne dit rien des liens éventuels qui ont pu exister entre l'individu et l'organisation. Il faudra attendre soit que ce soit établi par l'enquête elle-même, soit fourni par l'État islamique. Et puis, dernière chose, il faut être très prudent par rapport à une telle revendication. Ça ne veut pas dire que l'organisation elle-même a fourni des moyens. Il n'y a pas nécessairement de lien entre ceux qui passent à l'action et l'organisation. Ce sont simplement des individus qui suivent des préceptes et des préconisations émises par l'organisation terroriste.
Jean-Charles Brizard avec Alain Accot. Hier soir, environ 1500 personnes se sont retrouvées trouvait la cathédrale de Strasbourg, une cérémonie œcuménique pour rendre hommage aux victimes. 3 personnes sont décédées, 3 autres sont toujours entre la vie et la mort. Notez que les joueurs de foot de Strasbourg qui joueront demain donc à Reims en Ligue 1 porteront un maillot spécial sans publicité. Puis le marché de Noël de Strasbourg va rouvrir aujourd'hui.
Europe 1, il est 7h31.
Et depuis l'attentat de Strasbourg, les appels se sont multipliés pour qu'il n'y ait pas d'acte 5 de la part des Gilets jaunes.
Oui, la mobilisation dure depuis un mois. Le mouvement semble se diviser, s'étioler, mais certains comptent bien manifester une nouvelle fois demain. C'est le cas au rond-point de Douai. Lionel Gougelot a rencontré Nicolas, 36 ans, qui vit en concubinage avec Anna. Ils ont 6 enfants à charge. Nicolas, qui lorsqu'il est au chômage, a des revenus supérieurs que lorsqu'il travaille au SMIC.
Le problème, il est que quand on commence à avoir un emploi, que ce soit de l'intérim, du CDD, du CDI, sur mon pouvoir d'achat, moi, en moyenne, je perds 200 euros.
Une fois que monsieur y travaille, on perd tout. Hein, la PL, tout ça, ça baisse, il n'y a plus d'RSA, il n'y a plus rien. Donc en fait, ça ne sert à rien de travailler. Travailler pour faire quoi? Pour gagner moins? C'est pas la peine.
Je gagne plus ma vie en restant chez moi. Ouais. Et j'ai honte de le dire. J'ai un revenu en tout, hein, global, hein, de 2100 euros. Et que quand je travaille, je touche que 1800 euros. J'ai 6 enfants à nourrir derrière. J'ai beau y mettre toute la volonté du monde pour y arriver, j'y arrive pas. Pourquoi je perds autant quand je travaille et que je gagne autant quand je travaille pas? C'est pas comme ça qu'on va créer de l'emploi. C'est pas possible non plus. Ça peut pas durer.
Propos recueillis par Lionel Gougelot pour Europe 1. Une journée d'action et de grève pour les salaires et les pensions à l'appel de la CGT. Syndicat rejoint par Solidaires et FSU. Une manifestation est prévue à 12h30 au départ de la place de la République à Paris.
C'est le coup de massue pour les 850 salariés de l'usine Ford à Blanquefort, en Gironde.
46 ans que le site est implanté dans l'agglomération bordelaise. Les pouvoirs publics étaient prêts à mettre la main à la poche, mais hier, Ford a décidé de ne pas retenir l'offre de reprise. Le gouvernement crie à la trahison. Ils ont écouté Bruno Le Maire.
Je suis révolté, je suis écœuré par cette décision qui ne se justifie que par la volonté de Ford de faire monter son cours de bourse. Je veux dénoncer le mensonge de Ford qui dit que l'offre de reprise de Punch n'est pas crédible alors que c'est une offre qui garantit l'avenir du site industriel de Blanquefort. Et je veux dénoncer la trahison de Ford vis-à-vis des plus de 800 salariés du site du Blanquefort, à qui je veux rendre hommage, parce qu'ils avaient accepté de réduire leur salaire, de réduire leur RTT, de faire des efforts considérables pour garantir la reprise. Ils ont été trahis par Ford.
Le ministre de l'économie avec Anne-Laure Jumet pour l'ancien candidat à la présidentielle Philippe Poutou, délégué CGT de l'usine de Blanquefort. Il est hors de question d'accepter la fermeture de l'usine. Il estime qu'un PSE, un plan de sauvetage de l'emploi, n'est pas la solution.
Ben nous, on dit que c'est pas perdu. Alors c'est un paradoxe alors qu'on vient d'apprendre une nouvelle catastrophique. On a presque failli abandonner il y a 2 heures. Mais aujourd'hui, on se dit non, ça fait 10 ans qu'on se bat. Et donc en fait, on se dit mais merde, on tient, on tient, on tient. Et puis là, en plus, franchement, quand on a un gouvernement ou un ministre qui parle comme ça, ou quand on a des gens des pouvoirs publics et qui ont l'air assez remonter, il n'y a aucune raison d'abandonner là. Il est hors de question d'accepter cette fermeture d'usine-là et de penser qu'un PSE, comme celui qui est fait par Ford, puisse nous sauver. Parce qu'un PSE, c'est une somme d'argent, mais derrière, c'est du chômage.
Philippe Poutou avec Stéphane Place pour Europe 1.
L'émotion dans le monde du rugby après la mort d'un jeune espoir du Stade français.
Un hommage va être rendu à Nicolas Chauvin, 19 ans, sur tous les terrains de France ce week-end. Il est décédé avant-hier soir des suites d'un traumatisme cervical qui a entraîné un arrêt cardiaque après un violent plaquage subi lors d'un match dimanche dernier. La Fédération internationale avait décidé de revoir la règle du plaquage, mais sur le terrain, difficile de l'appliquer. Écoutez Hugo Mola, l'entraîneur du Stade toulousain.
On doit éradiquer certains gestes. On n'en veut plus et pour autant, les plus gros accidents n'arrivent pas forcément, mais les choses les plus spectaculaires. Donc ça passe par de la technique, ça passe par de l'anticipation, ça passe par de la réactivité. Il faut quand même se regarder en face et trouver des solutions très rapidement parce que oui, nos gamins vont commencer à fuir les écoles et à faire plus peinture et théâtre. Même si, attention, ils peuvent faire les deux. La culture est importante. S'ils peuvent faire rugby, peinture et théâtre, je suis preneur.
Hugo Mola avec Patrick Anselmetti pour Europe 1.
Le journal de 7h30 vous a été présenté par Céline Kallmann.
Europe 1, il est 7h35.
Jean-Michel Apathy, bonjour.
Bonjour Nikos.
Avec les événements tragiques de cette semaine, on les a beaucoup commentés. Eh bien, on les avait presque oubliés, mais pas vous. Hein. Ah, certains gilets jaunes disent ne rien lâcher et seront bel et bien dans la rue demain.
Alors ni moi ni personne ne les a oubliés. Ouais. Effectivement, ni les attentats, ni les discours d'Emmanuel Macron, ni rien ne détourneront les gilets jaunes de l'acte 5 de leur mouvement. C'est demain dans toutes les grandes villes de France.
Vous nous dites tout juste après ça. Jean-Michel Apathy sur Europe 1 dans un instant.
7h, 9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
Il
Il est 7h38, Nicolas Saliagas, l'heure de retrouver Jean-Michel Apathy.
Des gilets jaunes manifesteront encore demain partout en France. On se pose deux questions ce matin, Jean-Michel. Oui. Est-ce qu'il y aura du monde et est-ce qu'il y aura de nouveau des risques de violence?
Alors, du monde, il n'y a jamais beaucoup de monde dans les manifestations. 130 000 personnes la semaine dernière sur l'ensemble du territoire national, donc il est probable qu'on retrouve ce niveau de mobilisation. De la violence, oui. On serait surpris s'il n'y en avait pas, puisqu'il y en a tout le temps. Pourquoi y en a-t-il tout le temps? Parce que demain, comme la semaine dernière, les défilés, on l'a dit mille fois, mais c'est important. Les défilés ne sont pas déclarés, donc pas sécurisés, il n'y a pas de service d'ordre, donc les casseurs les infiltrent. Donc ça va se passer comme ça demain, comme ça s'est passé la semaine dernière et celle d'avant. Au passage, il y a 3 jours, il y a eu un attentat sur le sol français. Mmh. Et on va mettre demain dans les rues des grandes villes de France des gens sans aucune sécurité. C'est assez lunaire comme situation, inédite d'une part, parce que dans ce contexte c'est tout de même compliqué, mais c'est lunaire. D'ailleurs, nous sommes sur la Lune. Hier, les principaux dirigeants des Gilets jaunes ont fait une conférence de presse. Et parmi, bon, pour expliquer, il faut se mobiliser et puis rappeler leurs revendications. Et parmi les dirigeants de ces Gilets jaunes qui faisaient cette conférence de presse, il y avait Maxime Nicole. Alors Maxime Nicole, c'est l'homme qui, dès lundi soir, et puis il l'a répété depuis, hein, a suggéré que le gouvernement avait manipulé le terroriste de Strasbourg pour discréditer le mouvement des Gilets jaunes. Normalement, ça aurait dû valoir à Maxime Nicole d'être mis au banc de ce mouvement des Gilets jaunes. Mais pas du tout. Il est en train d'en devenir la vedette. On a appris que des étudiants de Sciences Po Paris l'avaient invité pour une conférence. Et donc hier, il donne une conférence de presse. La vénérable agence France Presse, l'AFP, dont nous avons tous appris que c'était le mieux du journalisme, a fait hier soir une dépêche avec un paquet de citations de Maxime Nicole. Un mouvement social aurait
mais
produit...
Mais on est dans une démocratie, il peut s'exprimer.
Ah, mais après avoir tenu des propos conspirationnistes, c'est quand même compliqué.
D'accord.
En général, le discrédit est au bout du chemin. Un autre mouvement social aurait suscité le tiers de cette bouffonnerie, on réagirait. Là, pas du tout. On est sur la Lune. Si on prend Éric Drouet, qui est sans doute le principal inspirateur du mouvement, camionneur de Seine-et-Marne, qui a dit, moi, mon but, c'est de rentrer à l'Élysée. Donc, lui, c'est un putschiste, c'est clair. Mais on va le voir, on lui demande de ce qu'il pense des événements et on répercute sa parole, sans aucun problème. Éric Drouet, avec un petit sourire en coin, commence à dire qu'à l'élection présidentielle de l'année dernière, il a voté aux 2 tours de l'élection présidentielle pour la même personne. Sous-entendu, au 1er tour, j'ai voté pour quelqu'un qui s'est qualifié au 2nd. Donc, comme il n'a pas voté pour Emmanuel Macron, il ne dit pas pour qui il a voté. On comprend pour qui il a voté. Le mouvement des Gilets jaunes est apolitique à la base, ça c'est net. Mais alors, au sommet, il est super politisé. Et du coup, je ne peux pas m'empêcher, 7h40 et 44 secondes, d'avoir une pensée émue pour Jean-Luc Mélenchon, qui hier encore, avec constance, talent et vigueur, a défendu à la tribune de l'Assemblée nationale l'acte 5 du mouvement des Gilets jaunes. Mais il sait Jean-Luc Mélenchon et qui mène ce combat? Il sait qu'il va être roulé à la farine à la fin de ce combat? Il le sait ça, Jean-Luc? Non, je vous dis, on est sur la Lune. La France est devenue l'unique pays au monde où les boussoles indiquent le sud et où le soleil se lève à l'ouest.
On a marché sur la Lune avec Jean-Michel Apathy ce matin, sur Europe 1. C'est tous les jours à 7h40. À présent, c'est vous qui le dites. Vous me laissez vos messages au 3921. Vous êtes nombreux à vous exprimer toujours sur la mobilisation des Gilets jaunes. On va écouter Mickaël de Toulouse, mais tout d'abord le témoignage d'Agnès qui habite à Reims.
Je téléphonais pour dire que je ne soutenais plus les mouvements des Gilets jaunes qui appellent à manifester chaque samedi à Paris ou dans les grandes villes. Et je trouve ça scandaleux qu'on assiste à au même déferlement de violence contre les policiers, contre le mobilier urbain. Mais tout ça, va falloir le payer. Et donc, moi, j'en ai marre que mes impôts vont servir à payer. Je pense qu'il y a la population en a ras-le-bol de voir ça.
Moi, je soutiens toujours les Gilets jaunes. Par contre, je me désolidarise complètement de la violence et puis de tout ce qu'on voit sur Internet. Enfin, il y a pas mal de fake news. Donc moi, je soutiens les Gilets jaunes parce que pour moi, l'intervention de notre président, au final, c'est quand même du vent, quoi, je veux dire.
C'est vous qui le dites, vous aussi réagissez à l'actualité et laissez votre message à Nicolas Saliagas au 3921.
Europe 1.
Et il est 7h42, Nicolas Saliagas, à suivre.
Il était 21h hier soir à Strasbourg quand le tireur présumé de l'attentat du marché de Noël, Chérif Chekat, a été abattu après 48 heures de traque. Mon invité dans un instant est l'ancien négociateur du RAID, Laurent Combalbert. A tout de suite sur Europe 1, on vous accompagne.
7h, 9h, Nicolas Saliagas sur Europe 1.
Il est 7h44, les principaux titres à retenir ce matin, Nicolas Saliagas.
Chérif Chekat est mort. L'auteur de l'attentat de Strasbourg a été tué par la police hier soir dans le quartier de Nordhof. L'agence de propagande de l'État islamique a affirmé que le terroriste était l'un de ses soldats. Bruno Le Maire dénonce une trahison de Ford après l'annonce du rejet de l'offre de reprise du site de Blanquefort en Gironde. 850 salariés sont concernés.
Un juge brésilien a ordonné l'arrestation en vue d'être extradé de l'ancien militant d'extrême gauche italien Cesare Battisti. Il est réclamé par la justice de son pays pour 4 assassinats. Enfin, la tendance météo, température très froide aujourd'hui, de moins 1 à 10 degrés côté ciel, globalement ensoleillé après une matinée pluvieuse dans le golfe du Lion et le piémont pyrénéen.
La météo complète avec Laurent Cabrol juste avant 8h. Europe 1. Nico Saliagas, vous recevez ce matin l'ancien négociateur du RAID et expert en gestion de crise, Laurent Combalbert.
Bonjour Laurent Combalbert. Chérif Chekat a donc été neutralisé, abattu devant un immeuble de la rue Lazaret à Neudorf. Ce sont 3 policiers de la BST, la brigade spécialisée de terrain, qui l'ont intercepté. Le terroriste aurait tiré sur les fonctionnaires. Il n'avait pas l'intention de se rendre, selon vous ?
C'est vrai que quand on est dans un quartier qu'on connaît, qu'on s'y retranche et qu'on sait que ce quartier est quadrillé par les forces de police, avec des hélicoptères, avec des drones, avec du monde partout, sortir dans la rue, c'est soit tenter la dernière chance et passer au travers des mailles du filet, soit effectivement aller à la confrontation pour en finir avec les policiers.
On a entendu tout à l'heure dans le journal l'un des parents d'une des victimes qui disait « on aurait préféré l'avoir vivant pour comprendre ». Pour faire notre deuil, pour avancer.
C'est vrai que c'est l'objectif principal, bien sûr, c'est d'interpeller vivant. D'abord pour avoir du renseignement, pour savoir s'il est tout seul, s'il fait partie d'un groupe organisé, s'il a des complices. Mais dans ce type de situation, face à quelqu'un qui veut en découdre, c'est ce qu'on appelle un suicide by cop. L'enquête le dira si c'est exactement ce profil. Mais
ça veut dire
quoi ? Un suicide by cop, ce sont ceux qui veulent être abattus par la police, qui se mettent en situation de ne pas laisser d'autre choix à la police que de les neutraliser.
Pour devenir un martyr, l'attentat a été revendiqué par Daesh, qui l'a reconnu comme l'un de ses soldats. C'est en cours d'authentification, cette annonce. Est-ce qu'il avait plutôt le profil d'un loup solitaire ou d'un terroriste organisé avec un réseau ?
C'est un criminel patenté, on le sait maintenant. C'est ce qu'on appelle l'hybridation, c'est-à-dire que les criminels qui vont aller se découvrir une vocation terroriste, qui vont découvrir la foi, souvent en prison, et qui derrière, eh bien, vont organiser leur vie autour de ce sujet. C'est-à-dire continuer à faire des actes criminels comme des braquages, mais en s'inspirant du terrorisme, en disant que c'est pour financer la cause, par exemple, et puis effectivement donner un sens à ce qu'ils font par cette façon-là.
Est-ce qu'il aurait pu avoir un soutien logistique ou financier, selon vous ?
On verra, l'enquête dira effectivement s'il a été soutenu. Visiblement, il manque quand même de soutien puisque sa traque s'arrête dans son quartier. Il est blessé, il a le réflexe d'aller uniquement dans l'endroit qu'il connaît, quartier de Neudorf. S'il avait été organisé, peut-être qu'il aurait été sorti, exfiltré par des complices. En l'occurrence, la police a très rapidement coupé tous les liens qu'il pouvait avoir avec sa famille, avec des interpellations ou avec des perquisitions. Donc effectivement, ça semble plutôt être quelqu'un qui s'est retrouvé acculé dans son quartier.
Un mot sur l'arme à 8 mm de 1892.
Oui, alors c'est la facilité à trouver certaines armes. Effectivement, on peut avoir l'impression que certaines armes de collection ne sont pas dangereuses. Mais même si elles sont moins performantes, moins vulnérantes que des armes de 9 mm, par exemple, modernes, elles restent mortelles, malheureusement.
Alors tout le monde a été choqué, évidemment, à Strasbourg. Et il y a eu un avis de recherche. Plus de 600 appels, c'est énorme. C'est l'appel d'une femme qui aurait permis ce dénouement. La diffusion de l'avis de recherche a été utile dans ce cas-là ?
Oui, très clairement. Les avis de recherche sont utiles, mais c'est à double tranchant. Que quand vous diffusez une photo et le nom d'une personne, eh bien vous avez des dizaines d'appels qui l'ont vu quelque part. On l'a vu à Paris, on l'a vu en Espagne, on l'a vu en Allemagne. Donc c'est le mauvais côté de l'appel à témoins. Le très bon côté, c'est le civisme des citoyens, le civisme des gens qui qualifient les appels, qui donnent de l'information.
Et comment on vérifie, c'est ça ? Enfin, il y a toute une structure pour vérifier si l'appel est bidon ou pas, c'est ça ?
Oui, tout à fait. Il y a un système de discrimination qui permet déjà au premier contact de savoir si c'est crédible ou pas, et puis ensuite qui va lancer les systèmes d'investigation autour de la recherche.
Sur une opération aussi lourde avec plus de 700 policiers et gendarmes, comment est-ce qu'on ordonne ?
C'est le sujet qui touche
BRI,
toutes les forces de police.
RAID, police judiciaire, c'est qui le patron sur le terrain ?
Alors, techniquement, c'est le premier sur place qui intervient quand on est sur un attentat ou sur une attaque chaude. Dans ce type de situation, c'est la police judiciaire très certainement qui a pris la coordination, puisqu'on est dans le cadre d'une enquête de police. C'est évidemment le procureur qui est également derrière. C'est la coordination opérationnelle, c'est-à-dire des chefs de pôle qui vont coordonner la recherche sur fichier, la recherche de renseignements, d'autres la recherche sur le terrain, la validation des images de vidéosurveillance. Il y a en fait tout un maillage qui se crée et qui est devenu très efficace depuis les attentats du Bataclan.
Et les moyens ont été considérables, là pour le coup. Écoute téléphonique, valise espionne pour intercepter les communications, hélicoptère équipé d'une caméra thermique. On a entendu le ministre de l'Intérieur qui a dit que tout a été déployé en fait.
Oui, c'est vrai que la rapidité de mise en œuvre des moyens, à la fois humains et techniques, a été très très forte. Et ça montre la capacité de mobilisation, malgré une ambiance un peu compliquée, des policiers qui sont sur le travail depuis pas mal de temps. une vraie mobilisation, un vrai engagement, une vraie motivation. Personne compte ses heures dans ce type de situation.
Alors oui, en même temps, c'est la brigade des îlotiers, quoi. Littéralement, une brigade spécialisée de terrain qui a intercepté hier le terroriste.
Ouais, mais c'est très bien. C'est très
ils
bien
sont
parce
entraînés
que ça...
ou pas pour ça.
Oui, ils sont entraînés depuis les derniers attentats. On a montré que la réponse rapide dans une attaque était déterminante. Avant qu'un groupe d'intervention ne soit sur place, hein, le délai d'emploi est normalement de 20 minutes, avec la multiplication des antennes RAID, GIGN qui ont été montées. Mais les policiers de terrain sont aujourd'hui formés à riposter dans ce type d'attaque, à protéger les citoyens. Et c'est bien que ce soit des policiers de la BST qui aient agi, parce que ça montre que tous les policiers, tous les gendarmes sont capables de riposter dans ce type de situation, ont aujourd'hui la motivation, la détermination et l'entraînement pour le faire. Et c'est très bien, c'est très sécurisant.
Mais à ce moment-là, Laurent Combalbert, vous qui êtes un ancien du RAID, un spécialiste de la négociation, on fait quoi? On répond juste au tir? Qui donne le feu vert pour tirer sur le terroriste à ce moment-là?
Alors, il n'y a pas besoin de feu vert pour tirer sur le terroriste, c'est la légitime défense. D'accord. Les policiers sont là pour protéger leur personne ou protéger autrui. Dès lors qu'ils estiment qu'il y a un danger vital, et à l'occurrence, quelqu'un qui vous tire dessus, la légitime défense est caractérisée, eh bien, ils ripostent pour neutraliser l'agresseur.
Hier soir, à Strasbourg, on l'a vu en direct, on l'a entendu sur notre antenne, les policiers ont été applaudis. Il y a une semaine à Paris ou à Bordeaux, ils étaient caillassés. Qu'est-ce que ça dit sur les forces de l'ordre de notre pays aujourd'hui?
Je pense que les gens qui ont applaudi les policiers ne sont pas ceux qui les ont caillassés le week-end précédent. L'immense majorité des gens, effectivement, soutiennent la police, hein, voient que ce sont des gens comme eux, hein, qui ont aussi des difficultés au quotidien, mais qui sont là tous les matins pour aller les protéger, qui font en sorte qu'on puisse manifester, parce que c'est un droit dans les meilleures conditions, mais qui empêchent les casseurs de détruire, parce que c'est juste pas de la manifestation.
Merci Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID, expert en gestion de crise et dirigeant fondateur d'ADN Group. Vous êtes encore aujourd'hui à la fois sur le terrain, partout dans le monde, et en même temps aller dans les écoles pour apprendre à des gamins à négocier avec le petit loulou, le petit caïd du quartier?
Oui, la négociation est partout. Donc effectivement, on a une équipe de 135 négociateurs dans le monde qui travaillent sur tout un tas de situations différentes. Et puis, comme vous l'évoquez, on forme les enfants avec ADN Kids dans les écoles.
Merci d'avoir été notre invité ce matin, Laurent Combalbert. À 8h15, c'est le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, qui sera au micro d'Audrey Crespo-Mara en direct de Strasbourg.
Europe 1.
Il est 8h52.
À suivre le Zoom Echo. Pernod Ricard va-t-il devenir britannique? C'est une question, c'est pas un canular. Le géant français est très inquiet, c'est ce que nous dira Axel de Tarlé. Et dans le journal de 8h, retour à Strasbourg sur les lieux de la fusillade qui a conduit à la mort de Chérif Chekat hier soir à Strasbourg avec David Doucan. A tout de suite.
Il est 7h54, c'est l'heure du Zoom Echo. Nikos Aliagas avec Axel de Tarlé.
La bataille du Ricard a commencé. Un fonds financier américain attaque Pernod Ricard et ça pourrait mal finir pour notre géant mondial des alcools, Axel.
Bien oui, parce que Pernod Ricard, c'est le numéro 2 mondial des alcools, hein, derrière un groupe anglais. Pernod Ricard, c'est une ribambelle de marques qu'on ne soupçonne pas. C'est la vodka absolue, c'est Chivas, c'est Ballantine, c'est le cognac Martel. Bon, ce sont plein de champagne, hein, Moom, Perrier Jouet, et évidemment le Ricard. Vous savez qu'en bourse, Pernod Ricard pèse trois fois plus que Carrefour ou Michelin. Eh bien, c'est ce géant qui est attaqué par un fonds financier et un fonds financier de la pire espèce qui s'appelle Elliott. C'est ce qu'on appelle, vous savez, des fonds vautours qui n'hésitent pas à attaquer. Ben, ce sont des fonds qui, de temps en temps, attaquent des pays en difficulté comme l'Argentine des années 2000 pour gagner de l'argent sur le dos de la misère. Ben là, cette fois, Elliott, ce fonds, s'attaque à Pernod Ricard.
Mais quelle est la méthode? Comment ce fonds américain attaque-t-il Pernod Ricard? Concrètement, qu'est-ce qu'il demande?
Alors, la méthode, Elliott est discrètement entré au capital de Pernod Ricard, ni vu ni connu, et maintenant qu'il est actionnaire, eh bien, que fait-il? Il déstabilise la direction, il la critique, et il propose des méthodes radicales pour faire monter le cours de bourse encore plus haut, encore plus vite. Il espère ainsi rallier à sa cause d'autres actionnaires. Alors, parmi ce qu'il demande, il y a une chose très inquiétante, je cite Elliott, il souhaiterait que Pernod Ricard soit prêt à une fusion avec un autre groupe. En gros, il vous souhaiterait que Pernod Ricard se vende et se vende à son grand concurrent, l'anglais Diageo, qui est le numéro 1 mondial des alcools et qui aimerait beaucoup en France mettre la main sur nos cognacs. C'est que nos cognacs se vendent dans le monde entier. Donc vous voyez, c'est presque devenu une cause nationale parce qu'en fait, l'histoire dans l'histoire, c'est qu'on se demande si ce fonds américain Elliott ne travaille pas en sous-main pour le géant anglais Diageo.
C'est un putsch, quoi.
Voilà, vous l'avez compris, il faut sauver le soldat Ricard. Et hier, chez Pernod Ricard, on était très sensible au fait que le gouvernement français ait réagi par communiqué officiel avant même Pernod Ricard, hein, dès 3 heures, pour dénoncer et critiquer officiellement les méthodes de ce fonds américain qui s'attaque donc à ce joyau national qu'est Pernod Ricard.
Axel de Tarlé, sur l'échelle de 1 à 10, c'est quoi le danger?
Eh bien écoutez, on va essayer que ce soit le plus bas possible, chez 2 ou 3. Mais chez Pernod Ricard, ils étaient inquiets hier parce qu'ils se disaient, on est en pleine forme, si on est attaqué, c'est qu'ils ont un plan derrière.
Le Zoom Echo, tous les jours, pour décrypter, comprendre, accompagner la vie économique de ce pays, avec Axel de Tarlé.
Il est 7h56, on retrouve Jean-Philippe Ballas pour la petite histoire du jour, Nikos.
Vous savez quoi, c'est tous les jours avant 8h avec vous, Jean-Philippe. Et ce matin, vous avez envie de croire à la magie de Noël.
Oui, parce que l'heure est grave, les amis. On a perdu le doudou de Sacha. Oula. Sacha, c'est une petite fille de 3 ans et demi. Et son doudou, un petit lapin en peluche, pas super beau, pas moche non plus. De toute façon, c'est pas le problème. C'est le doudou de Sacha, le seul, l'unique, celui qu'elle a depuis sa naissance. Et il a disparu mercredi soir à Paris. Je le sais parce que le papa de Sacha a posté un avis de recherche sur les réseaux sociaux et en résumé, il est écrit « Je suis un petit lapin blanc. Mercredi soir, j'ai pris le bus 29 avec Sacha, mais elle était tellement fatiguée qu'elle m'a laissé glisser de ses mains. » Il y a aussi une photo du lapin qui précise toutefois « Sur celle-ci, j'étais encore jeune et fringant. C'était à la naissance de Sacha. Depuis, j'ai pris un petit coup de vieux. » Bon. On est d'accord, en général, ce genre de bouteille à la mer numérique, c'est très mignon, ça se partage, mais ça ne donne jamais grand-chose. Sauf que là, je dis « magie de Noël ». Parce que, quelque part dans Paris, dans cette ville de plus de 2 millions d'habitants, où une peluche a à peu près autant de chances de retrouver son chemin que moi de jouer un jour en équipe de France, quelque part dans Paris, donc, un autre internaute va poster une autre photo de doudou, retrouvée mercredi soir, dans une ligne de bus, la ligne 29, oui, c'est le doudou de Sacha. Alors je vous confirme sur l'image qu'il a pris cher, il a beaucoup bourlingué cet animal, mais on le reconnaît, c'est bien lui. Bah, vous savez quoi ? Moi qui pensais que sur Internet, il n'y avait que des grincheux ou des complotistes, eh ben je découvre qu'il y a de petits lutins qui partagent des photos de petits lapins, même que ça marche. Tout ça pour vous dire que cette nuit, Sacha a pu dormir enfin à nouveau avec son doudou.
Quand on s'est connu, quand on s'est reconnu, pourquoi se perdre de vue, se reperdre de vue, quand on s'est retrouvé, quand on s'est réchauffé, pourquoi se séparer ? Alors tous deux, on est repartis dans le tourbillon de la vie. On a continué à tourner, tous les deux enlacés.
Jeanne Moreau, pour illustrer la chronique, la présentation de Jean-Philippe Ballas. C'est cette petite histoire qui nous fait du bien et qui nous fait croire à la magie de Noël. C'est tous les jours, juste avant 8h.
À suivre le journal de David Doucan, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol.
Vous en avez une histoire de Noël, Laurent Cabrol ?
Ah, mignon. Moi, je suis mon pouce. Ah bon ? Quand j'étais petit, je suis mon pouce. Maintenant, je mouille mon doigt.
Pour voir si les vents sont glacés, par exemple.
Voilà.
Quel programme.
Moins 8 degrés à Luxeuil, il fait froid. Hein. Ouais. Il fait froid aujourd'hui, moins 8, moins 5 à Langres, à Château-Chinon, Fontainebleau, moins 5, pas loin de Paris. Moins 1 degré à Lyon, enfin bref, des températures très froides, on se couvre. Je vous ai parlé du froid ce matin, depuis tôt. Je vous ai parlé du soleil en général. Un ciel voilé, maintenant je vous l'annonce sur la région lyonnaise, sur l'Alsace et sur l'Auvergne. Je vous ai parlé des pluies qui se manifestent sur le piémont pyrénéen. Je vous ai parlé de la neige sur les Pyrénées, ça fait plaisir à beaucoup de Pyrénéens et puis même d'autres, ceux qui vont aller en vacances. La neige à partir de 1300 mètres, elle va tomber aujourd'hui. Ce que je n'ai pas dit, c'est que la pluie arrive par la Bretagne. Alors cette pluie n'a l'air de rien, pour l'instant elle sera là ce soir. Mais dans la nuit, elle va traverser la partie ouest de la France. Elle va arriver sur un sol gelé, de sorte que demain, on a beaucoup de craintes en ce qui concerne le verglas, puisque cette pluie arrivera probablement sur un sol verglacé et il risque d'y avoir du verglas sur les routes, sur la moitié nord, pratiquement jusqu'aux portes de Paris. Vous voyez, entre, disons, Brest et Paris, là, vous avez un risque certain. Donc, soyez particulièrement prudents si vous partez demain, si vous prenez la route. Sinon, aujourd'hui, ben, c'est une journée, ma foi, assez souriante, avec des températures entre 1 et 8 degrés.
Merci Laurent Cabrol.
Et merci d'avoir choisi Europe 1 ce vendredi 14 décembre. Il est 8h, très bon réveil. Votre matinale info, c'est jusqu'à 9h avec Nico Saliagas.
Si vous vous préparez, si vous partez travailler, si vous êtes déjà en chemin, voici le journal de 8h présenté par David Doucan. Bonjour David.
Bonjour Nico, bonjour à tous.
Trois titres à la une.
Le tueur du marché de Noël a été neutralisé, abattu hier par la police. Épilogue de deux jours de cavale, récit détaillé dès le début de ce journal. À Strasbourg, les habitants vivaient dans l'angoisse depuis 48 heures. Ils sont soulagés. Le marché de Noël va rouvrir ses portes en fin de matinée. Page complète avec les envoyés spéciaux d'Europe 1 sur place dans un instant. L'Union européenne perd patience. Theresa May a demandé de nouvelles garanties. Les dirigeants des autres pays lui ont ouvertement montré leur agacement.
Europe 1.
C'est la fin de deux jours d'angoisse à Strasbourg. La police a fini par abattre Shérif Chekat hier à 21h. Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1 est avec nous. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Alors que s'est-il passé exactement ?
Bah écoutez, c'est un travail de terrain qui a payé. Hier, les enquêteurs ont eu la certitude que Shérif Shekat n'avait pas quitté le quartier de Neudorf. D'abord, grâce à l'appel à témoins, une femme à qui il avait demandé de l'aide l'a reconnue. Elle a appelé la police. C'est elle qui a précipité le bouclage de la zone hier après-midi. Pendant 2 heures, les forces d'intervention RAID, BRI ont ratissé le quartier, sans succès, mais ils savaient que le tireur n'était pas loin. D'après nos informations, des traces de sang ont été relevées et il avait été filmé par une caméra de surveillance près de la ZAC SNCF toute proche. Toute cette agitation policière autour de lui, c'était aussi pour le faire bouger. Et ça a marché. Deuxième ratissage du quartier hier soir, plus léger. Et là, c'est une patrouille du commissariat local. 3 policiers de la brigade spécialisée de terrain, la BST, qui repèrent sa silhouette au pied d'un immeuble. Ils veulent le contrôler. Le suspect se retourne, tire vers eux avec son vieux revolver du 19e siècle. Les fonctionnaires ripostent au fusil mitrailleur et le tuent. La fin de 48 heures de traque. Place maintenant à l'enquête sur ces assassinats.
Merci Guillaume. Information signée Guillaume Bier du service police-justice d'Europe 1.
Et un peu plus tard dans la soirée, l'État islamique s'est manifesté, David.
Oui, son média de propagande, l'agence Hamak, a affirmé que Shérif Shekat faisait partie des soldats de Daesh et que l'attaque du marché de Noël répondait aux appels à cibler des citoyens des pays de la coalition.
On va rejoindre maintenant un autre de nos envoyés spéciaux à Strasbourg.
Oui, Mathieu Bock, qui est actuellement rue du Lazaret, là où Shérif Shekat a été neutralisé. Alors, tant qu'il était introuvable, les habitants craignaient qu'il ne frappe à nouveau. C'est donc un soulagement qu'ils ont immédiatement ressenti, Mathieu, c'est bien cela ?
Oui, exactement, David. À l'annonce de la mort du suspect, les habitants sont descendus spontanément dans la rue, soulagés, pour applaudir les policiers qui quadrillaient le secteur.
J'ai le milieu à faire, hein. Hein, ils l'ont eu, il nous a bien ennuyé pendant longtemps. Hein. Comme ça, les victimes sont vengées.
Honnêtement, on est vraiment soulagés qu'il soit éliminé, donc on est tranquille, on peut dormir tranquillement. On se disait peut-être qu'il est dans le bâtiment, on ne sait pas. Et on avait vraiment peur.
Quand on se croisait, même les voisins entre nous, on se regardait avec la peur, on disait bonjour, mais on était toujours avec la crainte que voilà, on savait qu'il était à côté ou pas. C'était très, très vague. Et là, le fait qu'il soit arrêté, c'est sûr, c'est un très, très gros soulagement, évidemment.
Désormais, la question que se posent ces habitants, c'est comment ce fugitif recherché par plus de 700 enquêteurs, a-t-il pu passer 48 heures dans son quartier sans être inquiété ?
Passer inaperçu ? Non. Tout le monde se connaît ici, oui. Comment il a fait ? Ben, peut-être des complices. Hein. Il a dû être cherché ou peut-être habillé différemment, peut-être raser les cheveux ou autre, je ne sais pas. Mystère.
Shérif Shekat est donc mort dans la rue, à quelques centaines de mètres seulement du quartier où il a grandi.
Merci Mathieu Bock, vous étiez en direct de Strasbourg pour Europe 1.
On vient d'entendre ce soulagement, cette gratitude. On n'oublie pas les victimes, évidemment. Et la ville va peut-être maintenant pouvoir reprendre une vie normale ou un semblant de normalité. Quoi.
C'est en tout cas effectivement ce que souhaitent les habitants de Strasbourg, où nous retournons tout de suite, cette fois avec Pierre Herbulot. Bonjour Pierre.
Bonjour David.
Vous êtes au beau milieu du marché de Noël et c'est un symbole. Il va rouvrir au public dans quelques heures.
Oui, absolument. Je suis au centre de tous ces chalets en bois dont les volets sont restés fermés depuis 2 jours. À 11h, les vendeurs de souvenirs, de bougies, de décorations seront de retour. On sentira à nouveau l'odeur du vin chaud au pied de la cathédrale. Enfin, on va retrouver nos repères, vient de m'expliquer Manon.
Strasbourg le mérite et ses habitants le méritent. On doit au moins ça aux commerçants et aux habitants de Strasbourg, c'est d'essayer de reprendre une vie à peu près normal et puis de faire avec.
Je suis sûr que vous le connaissez par cœur, le marché de Noël. Est-ce que vous allez quand même y faire un tour ?
Bien sûr, si c'est ouvert, je pense qu'entre midi et deux, j'irai prendre mon petit citron pressé chaud à la cannelle, histoire de réchauffer un peu tout ça.
Elle ira spécialement donc au marché par solidarité et puis pour tourner la page, même si un autre Strasbourgeois me disait en voyant passer 2 camions de gendarmerie, malgré le symbole aujourd'hui, toute la ville reste déchirée par ce qui s'est passé.
Merci à vous, Pierre Herbulot.
Et nous allons revenir sur cette affaire avec l'invité d'Europe 1 à 8h15, Christophe Castaner. Le ministre de l'Intérieur répondra en duplex depuis Strasbourg aux questions d'Audrey Crespo-Mara.
Et je vous rappelle, pour conclure cette page spéciale, que Shérif Shekat a tué 3 personnes mardi soir en plein centre de Strasbourg. 13 autres ont été blessés, dont 3 sont toujours entre la vie et la mort, selon le tout dernier bilan communiqué par les autorités.
Europe 1.
À suivre dans le journal, l'acte 5 des Gilets jaunes, toujours prévu pour demain. Des chefs d'entreprise et des commerçants commencent à se mobiliser contre ce mouvement. On vous raconte tout cela dans un instant avec David Doucan. Bonne journée à tous.
Il est 8h07, votre matin.
matinale info, Nico Saliagas.
Le journal avec David Doucan. Cela fait maintenant 28 jours que les Gilets jaunes se mobilisent. Vont-ils manifester à nouveau demain à Paris, malgré le contexte terroriste?
En tout cas, le gouvernement, de nombreux responsables politiques, y compris à droite, les syndicats, certains Gilets jaunes eux-mêmes, ont appelé à renoncer à cet acte 5. Mais sur les ronds-points, beaucoup tiennent toujours à se mobiliser demain. Alors que les agents économiques ne supportent plus l'impact de ces troubles sur leur activité. Par exemple, hier, à Aubenas, en Ardèche, des commerçants, des chefs d'entreprise, mais aussi des salariés ont manifesté tous ensemble pour dire stop aux Gilets jaunes. Reportage signé Jean-Luc Boujon.
À l'entrée de la zone commerciale, le rond-point de la Discorde, occupé depuis presque un mois par des Gilets jaunes. 100 mètres plus loin, 150 personnes à bout défilent en silence. Des commerçants, des salariés, des chefs d'entreprise comme Jean-Louis Mazet, patron d'une boîte de transport.
C'est une véritable catastrophe. Les véhicules sont bloqués dans les ronds-points. Dans le transport, les deux mois les plus importants, c'est le mois de novembre et c'est le mois de décembre. Et cette année, on n'aura pas de résultats sur ces deux mois-là et ça va être dramatique pour l'entreprise. Alors, on comprend au départ les Gilets jaunes, leurs revendications. J'estime que là maintenant, ça suffit. Il y a quand même des efforts significatifs qui ont été faits. Il faut vraiment que ça s'arrête.
Chez les salariés aussi, c'est le ras-le-bol. Et pourtant, Odette, commerciale, avait un gilet jaune il y a encore trois semaines.
La première semaine, oui, j'y étais. Mais après, c'est le mouvement qui n'a pas été fait comme il faut. Moi, en plus, je suis à la commission, je ne travaille pas. Donc, moi, c'est mon salaire qui est parti. Je leur ai dit, je me suis fait insulter.
Dans le cortège également, de simples citoyens excédés comme Jocelyne.
Stop, là, ça suffit. Ça devient ingérable, imbuvable. On est en train de faire les choux gras d'Amazon. La France, on est ridicule. On est la risée du monde entier. Donc, stop.
Un cortège qui ne pourra pas aller jusqu'au rond-point des gilets jaunes, empêché par les gendarmes pour éviter toute confrontation. Aubenas, Jean-Luc Boujon, Europe 1.
Et je précise que le dispositif policier pour la journée de demain sera semblable à celui de la semaine dernière. C'est Michel Delpuech, le préfet de police de Paris, qui le rappelle. Donc, pour rappel, il y avait 89 000 policiers et gendarmes sur toute la France, 8 000 à Paris, avec l'utilisation de véhicules blindés.
Un sommet européen se déroule depuis hier à Bruxelles au sujet du Brexit.
Oui, Theresa May a demandé de nouvelles garanties censées lui permettre de faire ratifier son accord. Les 27 se sont ouvertement agacés. Ils ont toutefois consenti à adopter un texte destiné à apaiser les inquiétudes des parlementaires britanniques. Mais c'est un document sans valeur juridique. Le récit et les explications d'Isabelle Horry.
Les Européens sont en train de perdre leur flegme face aux Britanniques. Hier, ils ont écouté Theresa May leur expliquer que si elle obtenait des garanties en plus, elle pourrait arracher un vote à Westminster. Mais comme ils ne veulent pas renégocier, ils ne comprennent pas vraiment ce que la première ministre attend d'eux. Elle est restée vague et imprécise. Pendant la discussion, la chancelière allemande l'a même interrompue pour lui demander d'expliquer ce qu'elle voulait précisément. Le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, ne dissimule même plus son agacement quand il parle devant la presse.
Nos amis britanniques doivent dire ce qu'ils veulent au lieu de nous faire dire ce que nous voulons. Nous sommes dans un débat quelquefois nébuleux, imprécis. Madame May a conduit un combat vertueux, courageux, et les résultats ne sont pas là.
Les divisions des députés britanniques ne passent évidemment pas inaperçues à Bruxelles. L'inquiétude monte donc en flèche chez les 27. La Commission européenne vient d'annoncer qu'elle publiera la semaine prochaine toutes les informations utiles pour se préparer concrètement à une sortie sans accord. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
C'était le journal de David Doucan.
La matinale d'Europe 1. Nico Saliagas.
Il est 8h11, coup d'œil à l'international, maintenant avec Vincent Hervouet, Nikos.
Cher Vincent Hervouet, la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis prend le Canada en otage.
Oui, bonjour à tous. Si vous êtes Canadien, si vous vous appelez Michael, un conseil, évitez d'aller fêter Noël en Chine. Une erreur judiciaire est si vite arrivée. Michael Kovrig est un ancien diplomate de passage à Pékin. La police secrète l'a embarqué sans explication. Michael Spavor, lui aussi, est tombé aux oubliettes chinoises. Il organisait des voyages en Corée du Nord. Et bien maintenant, il fait une expérience kafkaïenne à la façon nord-coréenne. Ces deux Canadiens sont des pions. Ils servent de monnaie d'échange. Les Chinois les ont pris en otage pour récupérer la princesse Wei Wei. Son vrai nom est Meng Wanzhou. C'est l'héritière du géant des télécoms fondé par son père, la directrice financière d'un groupe qui fait 80 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel.
Et il y a deux semaines pile, elle a été arrêtée alors qu'elle était en transit à Vancouver.
À la demande des Américains qui l'accusent d'avoir menti aux banques, c'est pas bien, d'avoir caché qu'une ancienne filiale de Huawei a vendu du matériel à l'Iran. Ça, c'est très mal, ça peut valoir 30 ans de prison. Pékin proteste avec véhémence. Hier, la princesse est sortie de prison pour être assignée à résidence. Pékin est convaincu que les Américains veulent torpiller leurs géants des télécoms, que la guerre économique se fait avec les moyens de la guerre froide, qu'il n'y a pas d'État de droit, mais que l'État a tous les droits. Mmh. Et c'est pour ça donc que les deux Michael ont été pris en otage. Alors il y a deux leçons. La Chine est comme un État voyou, elle ne connaît que les rapports de force. Et puis la France, eh bien c'est le contraire. Son ambassade au Japon a rendu visite à Carlos Ghosn, comme on va au zoo. C'est pas question de lever le petit doigt pour le faire libérer, pas même de boycotter les marchands de sushis à Paris.
Vincent Herouet, le point de vue international, c'est tous les jours sur Europe 1.
Europe 1.
Il est 8h13.
On va continuer à parler effectivement de l'attentat à Strasbourg. Et vous recevez dans deux minutes Audrey Crespo-Marin, le ministre de l'Intérieur.
Christophe Castaner, il a choisi Europe 1 pour s'exprimer ce matin en direct depuis Strasbourg, où le terroriste du marché de Noël a été abattu hier soir.
A tout de suite.
Il est 8h15, Nico Sadiagas.
Nous sommes dans notre studio à Europe 1 rue des Cévennes, mais le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, est à Strasbourg en direct. Vous allez l'interviewer, Audrey Crespo-Marin. Bonjour.
Bonjour. Bonjour, Christophe Castaner.
Bonjour.
Merci d'avoir choisi de vous exprimer ce matin en direct sur Europe 1. Vous êtes encore à Strasbourg, où le terroriste a été abattu par les forces de l'ordre hier soir. C'est avec soulagement ce matin que les Strasbourgeois vont pouvoir retourner sur le marché de Noël.
Soulagement, oui, parce qu'ils ont vécu pendant 48 heures l'angoisse de pouvoir retrouver une vie normale. Je sais que beaucoup sont choqués, ils sont accompagnés d'ailleurs par des cellules d'aide psychologique, mais j'ai d'autres sentiments. D'abord, la peine et le recueillement, parce qu'à l'heure où je vous parle, il y a 3 personnes qui sont mortes, il y a des blessés dont certains luttent pour la vie. Mais j'ai aussi un sentiment de fierté pour les hommes et les femmes de la police nationale, de la gendarmerie, qui ont tout donné pour retrouver l'assaillant et le mettre hors d'état de nuire. Je pense aussi aux militaires de l'opération Sentinelle qui, dès les premières minutes, ont été confrontés à lui et l'ont blessé, ce qui a certainement permis aussi cette interpellation rapide. Et puis je pense à la vigilance nécessaire partout en France, car cet attentat est bien la preuve que la menace terroriste est toujours là, bien présente, et que malgré notre engagement, elle peut frapper encore et toujours.
Regrettez-vous que le terroriste de Strasbourg n'ait pas été attrapé vivant ?
Oui. Oui, parce qu'il est toujours important de pouvoir reconstituer l'enquête. D'ailleurs, nos 3 agents, nos 3 policiers qui sont intervenus l'ont interpellé oralement pour le contrôler. Et c'est le moment où il s'est retourné et avec son arme. Il a fait feu et donc ils l'ont abattu pour se défendre, mais pour se protéger aussi mutuellement.
Alors, un hélicoptère tournait sur zone. Hein. On le cherchait dans le quartier, dans son quartier. Ensuite, plusieurs versions divergent, dites-nous. Tantôt, il est signalé par une femme qui remarque sa blessure. Tantôt, ce sont des caméras de surveillance qui ont permis de l'identifier. Et tantôt, une patrouille l'a croisé par hasard. Qu'en est-il ?
C'est l'essentiel, c'est surtout le travail de terrain qui paye. Et le travail de terrain, il a été engagé dans les minutes qui ont suivi les premiers homicides. Le renseignement est parti du quartier du Neudorf à Strasbourg, mais jusqu'à des pays étrangers qui ont été mobilisés pour nous accompagner. C'est cela, une enquête, une traque. Mais ensuite, c'est vraiment le travail de terrain. Donc vous avez raison, sur un hélicoptère qui a été mis en place l'après-midi, compte tenu de renseignements que nous avions dans son quartier d'origine qu'il connaît bien, le Neudorf. Et c'est aussi ce dispositif-là qui a été accompagné d'un quadrillage précis du quartier. Il y avait donc un dispositif de surveillance, de filature, d'intervention du RAID qui était mobilisé, qui a été mis en place dès l'après-midi avec les BRI, les services de police et 7 hélicoptères. Et ça l'a contraint à se mobiliser dans le cadre du quadrillage. 3 fonctionnaires de police de la brigade spécialité de terrain, alors qu'ils patrouillaient, mais dans ce cadre-là, et pas par hasard, j'ai entendu cela et c'est assez surprenant, ont repéré l'individu qui correspondait au signalement et je vous ai dit ce qui s'était passé au moment où ils ont voulu le contrôler. L'individu s'est retourné, il a tiré, les policiers ont riposté, l'ont neutralisé.
La traque a duré plus de 48 heures. À partir de quel moment avez-vous retrouvé la trace du terroriste ?
En fait, au fond, dès les premiers instants, l'enquête s'est tournée vers le quartier du Neudorf, qui était son quartier d'origine. Et donc, nous n'avons rien lâché. Ça a été une enquête menée, je dirais presque mètre carré par mètre carré. Puis en même temps, quand vous faites du renseignement, vous intéressez à tout son environnement. Très vite, on a identifié 2 de ses frères. On a localisé 2 de ses frères qui n'avaient pas pu être placés en garde à vue. Et voilà, c'est tout ce travail-là qui fait qu'il y a eu des interventions, même à Paris hier après-midi, dans le 7e arrondissement, sur des gens qui appartenaient à son environnement, où nous avons voulu vérifier. Et donc, c'est ce travail de vérification qu'ont conduit les 380 enquêteurs qui étaient placés sous l'autorité du procureur de Paris, Rémi Heitz.
Christophe Castaner, ce que vous nous dites, c'est que le terroriste n'avait pas quitté son quartier depuis l'attaque.
L'enquête déterminera cela. Je suis incapable de vous dire au moment présent l'exact calendrier, agenda de son parcours pendant ces 48 heures, mais tout laisse à penser qu'effectivement, il est resté sur site en planque et que nous l'avons débusqué, chassé, parce qu'on peut utiliser ce terme-là, et ensuite, il a été neutralisé.
Au total, combien d'hommes étaient mobilisés pour sa traque et pour échapper pendant plus de 48 heures à autant d'hommes, a-t-il bénéficié du soutien d'autres personnes ? Sommes-nous face à un réseau organisé ?
L'enquête le déterminera, donc à l'heure qu'il est, je suis incapable de vous répondre précisément à cela, mais rien n'indique qu'il soit intégré dans un réseau, rien n'indique qu'il ait eu des protections particulières dans ce cadre-là, mais évidemment l'enquête, vous savez, n'est pas close, le procureur se prononcera d'ailleurs en fin de matinée, et moi-même j'irai tout à l'heure aussi voir les enquêteurs pour les encourager à poursuivre, mais surtout pour leur dire un immense merci au nom, je crois, de la nation française et de tous les Français.
Et si on résume son profil, c'est un délinquant multirécidiviste qui s'est radicalisé, qui a des frères radicalisés. C'est le même profil que Mera ou les frères Kouachi ?
Non, il faut prendre le temps avant de se prononcer. Vous savez, dans le commentaire, on peut commettre des imprécisions et des erreurs. Tel n'est pas le cas. Une chose est sûre, c'est que c'est un délinquant violent qui, dès l'âge de 10 ans, est identifié pour sa violence, qui commet de nombreux larcins. C'est pas un grand criminel, mais au moment où nous voulons l'interpeller, mardi matin, c'est pour une tentative d'homicide. Et donc, on est déjà là sur un haut niveau de gravité d'un point de vue pénal. Et c'est là où... Mais on est vraiment sur du droit commun, c'est là où, quelque part, il est peut-être rattrapé par sa radicalisation. C'est un process qu'on connaît chez les terroristes. Il y a un facteur déclenchant, et le facteur déclenchant fait que, au nom du fait de sa radicalisation, il va commettre ces actes-là. Et en cela, il ressemble effectivement au nom que vous avez cité.
29 ans, condamné 27 fois, fiché S, en liberté. Vous êtes ministre de l'Intérieur, qu'est-ce que vous comptez faire ?
Moi, je compte respecter l'état de droit. Et je pense que chacun doit raisonner et se dire que la différence entre ceux qui attaquent la démocratie et les démocrates, c'est justement de respecter l'état de droit. Pour les faits qu'il a commis, il a été condamné. Pour les condamnations qu'il a eues, il l'a subi et il a fait ses peines de prison.
Mais Christophe Castaner, vous entendez une partie de l'opposition qui vous demande d'enfermer les fichiers S français, d'expulser les fichiers S étrangers. Qu'est-ce que vous comptez faire ?
Non, mais d'abord, quand nous avons des fichiers S étrangers qui sont condamnés, nous les expulsons déjà, chaque fois que c'est possible. Ensuite, on peut toujours se faire plaisir et faire du commentaire. Moi, je suis ministre de l'Intérieur, je préfère ceux qui font. Et ceux qui font, ce sont les femmes et les hommes qui, sur le terrain, savent. Et
très clairement, vous ne changez pas les réglementations actuelles, vous n'entendez pas les changer.
Mais d'abord, on a une loi qui est très récente et qui donne des moyens à notre police. Mais il faut avoir en tête que le fichier S ou le fichier FSPRT sont des outils. Sont des outils et ne sont pas des marqueurs judiciaires, ne sont pas des décisions judiciaires. Et alors on peut très bien se dire, tiens, on va supprimer l'outil et tout ira mieux. Ce serait totalement inconséquent. D'ailleurs, je ne suis pas le seul à le dire ça. Il y a des responsables politiques, mais qui ont un minimum d'expérience politique, mais aussi d'expérience de la police et du judiciaire, qui disent la même chose que nous. C'est aussi bête que de penser que pour soigner une maladie, il faudrait casser le thermomètre. Moi, j'ai appris depuis tout petit que le thermomètre, c'était un indicateur d'une maladie. Et ensuite, il fallait traiter la maladie. C'est ce que nous faisons, notamment en intervenant dans les quartiers, y compris ici à Strasbourg, mais partout en France, en luttant contre la radicalisation. C'est ce combat-là que nous devons mener, parce qu'effectivement, la radicalisation peut conduire, pas toujours, mais peut conduire à des actes fous et à des actes terroristes.
Daesh, Christophe Castaner, a finalement revendiqué l'attaque de Strasbourg. Ça prouve que malgré sa défaite militaire, l'État islamique conserve son influence ?
Bien sûr, et donc c'est pour ça que le risque terroriste existe. Je voudrais vous rappeler que le 14 novembre, trois jours avant le premier jour des manifestations des Gilets jaunes, nous avons démantelé un réseau terroriste qui voulait s'en prendre à la manifestation du 17 novembre. Je peux vous dire que depuis le 17 novembre, il n'y a pas une heure dans laquelle je ne vis pas avec le risque terroriste qui existe aussi sur les manifestations, parce que vous avez une masse importante de personnes. C'est ça la réalité. Jamais je n'ai pu dire que le risque zéro n'existait ou que nous n'étions pas dans une tension terroriste. Je l'ai dit constamment et je le dis constamment parce que c'est la réalité. Même si Daesh est affaibli à l'international sur site et que le risque d'attaque exogène venant de l'extérieur est diminué, le risque endogène, et nous l'avons hélas encore vu mardi, existe en France.
Christophe Castaner, les forces de l'ordre sont engagées sur plusieurs fronts. La fronde des Gilets jaunes, la contestation des lycéens, jusqu'à hier soir, la traque du terroriste et le plan urgence attentat. Avez-vous vraiment les effectifs suffisants pour mener toutes ces missions simultanément ?
Oui. parce que nos forces de l'ordre ont justement cette capacité à ne jamais baisser les bras. Et ce que j'ai vu ces dernières semaines, c'est cela. Mais franchement, je peux vous dire que je préférais que les forces de l'ordre soient en train de faire leur vrai métier, c'est-à-dire poursuivre les criminels, diminuer le risque terroriste, plutôt que de devoir sécuriser des ronds-points où quelques milliers de personnes, parce que c'est bien ce dont on parle, mobilisent énormément de forces. Il y a un acte 5, paraît-il, de mobilisation des gilets jaunes demain à Paris. Ben moi, je préférerais un acte de responsabilité pour nos forces de l'ordre, pour nos commerçants, pour notre économie. Il faut qu'ils se rendent compte, les gilets jaunes, notamment à Paris, qu'ils ont fait vivre un coucou, celui de la violence des ultras, de droite ou de gauche, celui des voleurs, des casseurs, qui profitent de la manifestation pour se livrer au cassage tel qu'on l'a vu. Sans eux, sans les gilets jaunes, ils ne sont rien ceux-là. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, les gilets jaunes le savent.
Vous appelez à la responsabilité,
est-ce que
ça vous choque, Christophe Castaner, que Jean-Luc Mélenchon continue à appeler à l'acte 5 de la révolution citoyenne ?
Écoutez, mon boulot n'est pas de commenter Jean-Luc Mélenchon. Je laisse Jean-Luc Mélenchon à ses invitations révolutionnaires multiples, mais il fait partie peut-être aussi des coucous. Je crois que les Gilets jaunes ne le reconnaissent pas comme leur chef. Vous savez, aujourd'hui, que les Gilets jaunes prennent toute leur place dans le grand dialogue auquel le président de la République les a invités. Vous savez, hier soir, j'étais dans les rues de Strasbourg. J'ai vu le peuple de France applaudir nos forces de sécurité. Et demain, on va les caillasser ? Et demain, on va laisser faire ça ?
Samedi,
moi, je m'y refuse.
Demain, justement, Christophe Castaner, les forces de l'ordre vont se montrer offensives. Elles s'étaient montrées offensives samedi dernier. Elles le seront encore plus demain. Et est-ce que ce sera le même dispositif que samedi dernier ?
Nous faisons évoluer le dispositif parce qu'on est confronté à des attaques que nous ne maîtrisons pas dans le cadre de manifestations qui ne sont pas déclarées, qui ne respectent aucune règle. On parle de ça aussi pour les organisateurs et qui ne prennent d'ailleurs aucune responsabilité. C'est que personne n'assume de dire « Ah oui, mais c'est moi qui organise ». Non, non, on laisse la dérive aller, on laisse la casse se dérouler
même
et après on pleure sur
demain.
Les cendres. Nous le renforcerons et nous l'adapterons partout où c'est nécessaire.
Merci Christophe Castaner.
C'était Audrey Crespo-Mara et le ministre de l'Intérieur pour l'interview politique. C'est tous les jours à 8h15 sur Europe 1. Et à noter que ce dimanche, le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, sera l'invité du grand rendez-vous Europe 1 CNews Les Échos. Interview à suivre en direct dès 10h ce dimanche sur notre antenne.
Europe 1.
Il est 8h26, à suivre Nikos.
La revue de presse avec David Abiker, Macron, les coulisses d'une révolution, article à ne pas manquer ce matin dans le journal Le Parisien aujourd'hui en France, 8h45, paré à terminer la semaine en beauté avec Nicolas Canteloup et Julie pour la revue de presse. Bonne matinée à tous.
Europe 1.
David Abiker, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol, Nikos.
Le grand froid, mon cher Laurent Cabrol.
Le grand froid qui ne va pas durer, Nikos. Je crois qu'il faut le dire à nos amis, parce qu'à partir de dimanche, ce sera un redoux spectaculaire. Donc un froid tout à fait provisoire, avec des moins 8 ce matin, des moins 8 à 0 degré, moins 8 du côté de Nevers par exemple, et 5-6 degrés à Bordeaux et Nice, et en passant par moins 1 à Paris. En ce qui concerne la couleur du ciel, c'est un soleil d'automne qui va l'emporter. Je le disais tout à l'heure, mais franchement, c'est pas un grand soleil, hein, bien sûr, mais l'impression ne sera pas trop désagréable pour la saison. Nous aurons un peu de petits voiles sur l'Auvergne, sur le Rhône et l'Alsace. Et puis nous avons de la pluie sur le Piémont pyrénéen et sur le Golfe du Lion jusqu'au Delta du Rhône. Mais enfin, dans l'ensemble, l'amélioration se dessinera aussi dans ces régions et la journée sera plutôt sympathique. Demain, ce sera beaucoup moins avec le verglas dans l'ouest.
Merci Laurent Cabrol. On se retrouve juste avant 9h pour un prochain point météo. Et dans quelques secondes, la revue de presse nationale et régionale avec David Abiker.
Europe 1. Question épargne, la Caisse d'épargne vous répond.
Marc Riez, vous êtes directeur de la gestion financière déléguée pour les caisses d'épargne. La gestion sous mandat, c'est quoi et ça s'adresse à qui ?
En fait, la gestion sous mandat s'adresse au client qui n'a pas le temps ou l'expertise pour gérer seul son portefeuille. Nous lui proposons donc de déléguer cette gestion à nos experts qui vont mettre en œuvre des solutions de placement personnalisées.
Qu'entendez-vous par placement personnalisé ?
En fait, nos experts vont sélectionner en fonction du profil de chaque client, de son appétence au risque, des solutions d'investissement au plus près de leurs attentes. Ensuite, c'est nous qui gérons les placements au quotidien, en toute transparence, et en les informant régulièrement des opérations réalisées.
Pour bien choisir ses placements, il faut être bien accompagné. Découvrez le nouveau parcours épargne personnalisé en prenant rendez-vous avec un conseiller Caisse d'épargne. Caisse d'épargne, vous êtes utile. La recherche de performance expose à un risque de perte en capital.
À suivre dans la prochaine demi-heure, Nikos.
Je passe un coup de fil à Cadmerade, à l'affiche du film Le gendre de ma vie, histoire de rire un peu, ça sort en salle mercredi. Et puis il y aura du Nicolas Canteloup, mais tout de suite...
Et tout de suite, on va retrouver David Abiker, il est 8h30.
7h-9h, Nikos Aliagas sur Europe 1.
David Abicaire, donc Nikos, pour la revue de presse.
Bonjour David.
Bonjour Nikos, bonjour Céline et bonjour à tous.
Bonjour.
Ce matin, la presse semble illustrer une phrase prononcée lundi par Emmanuel Macron. Souvenez-vous, c'était ça.
Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies.
Nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies. C'est le temps des remises en question ce matin dans la presse. Changer ou continuer comme avant. Le maire de Strasbourg et ses habitants, eux, ont choisi de reprendre le cours normal de leur existence après l'attentat. Malgré tout, l'objectif est de retrouver notre mode de vie, notre manière d'être, nos valeurs qui ont été prises pour cible. Propos tenus hier par Roland Ries, rapporté par les dernières nouvelles d'Alsace. À la une de Libération, ce sont les Gilets jaunes qui s'interrogent. Continuer à manifester à Paris ou y renoncer? Gilet ou j'y vais pas? Jeu de mots du quotidien Libération. Idem pour la politique européenne de la France. On garde le cap ou on le change? Il y a le sommet de Bruxelles qui se termine aujourd'hui. Bref, ce matin, la presse collectionne les examens de conscience.
Et on commence avec celui d'Emmanuel Macron, rapporté par Le Parisien aujourd'hui en France.
Quand le président dit lundi dernier que nous ne reprendrons pas le cours normal de nos vies, il pense d'abord à lui-même et à sa façon d'exercer le pouvoir, sans doute. Pour s'en convaincre, il faut lire ce matin Le Parisien aujourd'hui en France, un papier qui commence par un coup de fil d'un proche au président lui-même et qui démarre ainsi, j'ouvre les guillemets tellement c'est énorme. Nul ! Nul ! Tu es nul ! Rapporte Le Parisien aujourd'hui en France, sans dire qui est ce fidèle du chef de l'État qui lui parle aussi directement. Et Le Quotidien d'expliquer comment Emmanuel Macron, rudoyé par ses soutiens, a mûri son intervention de lundi. Il n'a quasiment pas accordé de rendez-vous, mais échangé des dizaines et des dizaines de SMS. C'est la première fois qu'une crise gouvernementale est gérée par texto, sourit un macroniste. Le président a surtout consulté des vieux briscards de la politique, Jean-Paul Delevoye, Richard Ferrand, mais il a surtout travailler seul, s'est méfié des pressions de Bercy et de ses technocrates pour préparer son intervention. L'audience télévisée l'a un peu rassuré. Il n'est pas hollandisé. Mais un ami prévient, s'il ressort une phrase à la con, cette fois ça comptera double.
Remise en question également dans le journal Libération.
Libération qui met au jour une sorte de flottement chez les Gilets jaunes sur la poursuite ou non du mouvement. On se tâte sur les ronds-points après les annonces du président et l'attentat de Strasbourg. Et si vous lisez les éditos ce matin, à part la Marseillaise qui paraphrase Mélenchon avec ce titre « Manifester, un droit sacré », le ton serait plutôt « Allez, soyez raisonnable. À force de tourner en boucle sur les ronds-points, il faut se méfier de la tête qui tourne, lit-on dans Midi Libre. Il n'y a rien de plus. Il n'y a rien de scandaleux à se mettre en mode pause, suggère le journal La Haute-Marne. Mais face à la tisane journalistique, la plupart des Gilets jaunes n'en démordent pas. Attentat ou pas, ils iront manifester. Tiffaine, plutôt deux fois qu'une. Ou Hélène, parlant de son mari qui lui montera à Paris. Quitte à mourir, ce sera pour le peuple, dit-elle. L'acte 5 est plutôt bien parti.
Et rien ne sera plus comme avant pour les médias, pour la presse en général.
Et pour les experts, ça concerne aussi les experts scientifiques, techniques, comme l'explique Libération, avec la publication d'un rapport de France Stratégie qui dresse un bilan très négatif de la crise de confiance populaire dans la parole des sachants, des experts et des savants. Diagnostic assez proche dans Les Échos, avec une tribune signée par un certain Laurent Guimier, vice-président d'Europe 1, et son conseiller Guy Birenbaum, bien connu de nos services. Ils publient tous les deux un texte intitulé « Notre média culpa ». Jeu de mots, mais à culpa. Texte qui dit lui aussi qu'avec cette crise, les médias ne pourront plus reprendre le cours normal de leur vie. Défiance, manque de proximité, déficit de représentativité, coupure avec le terrain, tous les éléments à charge du procès fait rituellement aux médias depuis des années y passent. Procès décuplé par l'émergence des réseaux sociaux. Battre sa coulpe, oui, mais quand même avec un objectif. Redevenir un médiateur fiable, équitable et proche des publics. Nikos, vous allez passer encore plus de temps sur les ronds-points. Ce ne sera pas une journée, mais une semaine. Si la corporation médiatique n'y parvient pas, ce ne sont plus les mea culpa qui la sauveront et c'est la démocratie qui le regrettera.
Vous avez choisi cette musique
parce que j'adore Souchon et j'aime pas les regrets, mais j'adore Souchon.
David Abicaire pour la revue de presse.
Europe 1.
Il est 8h36.
C'est votre journée. On va passer un coup de fil à Cadmerade dans quelques instants. Le comédien revient au cinéma dans Le Gendre de ma vie, en salle dès mercredi prochain. 8h45, l'incorrigible Mister Cantelou. Lui, il arrive pour tout déranger. Juste avant le week-end, ça fait du bien de rire aussi un peu dans cette actualité lourde. A tout de suite sur Europe 1. On vous accompagne jusqu'à 9h.
Il est 8h38. Les principaux titres de l'actualité à venir ce matin, Nico Saliagas.
Le marché de Noël de Strasbourg doit rouvrir à 11h ce matin. Le ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, sera d'ailleurs sur place au lendemain de la mort de Chérif Chekat. Le ministre a affirmé ce matin qu'à ce stade de l'enquête, il n'y avait aucune complicité. Il était l'invité d'Europe 1 à 8h15 au micro d'Audrey Crespo-Mara. Peu après la mort de Chérif Chekat, l'agence de propagande de l'État islamique a affirmé que le terroriste était l'un de ses soldats. Dans l'actualité également, la CGT qui appelle à une journée d'action aujourd'hui pour demander des hausses de salaire. Et puis Ford qui écarte l'offre de reprise de l'usine de Blanquefort en Gironde. L'avenir de 850 salariés est en jeu.
Europe 1.
Nico Saliagas, c'est votre journée.
Comme tous les matins, un coup de fil à celui ou celle qui fait l'actualité. Et ce matin, on a passé un coup de fil à Cadmerade qui est avec nous. Bonjour Cadmerade.
Bonjour Nikos.
Alors, on vous retrouve mercredi prochain dans une comédie drôle et tendre. Vous jouez un papa, le film s'appelle Le Gendre de ma vie. Vous avez trois filles en fait. N'avez pas eu de fils. Et c'est,
non,
un, c'est
fils,
le regret de votre
problème.
Vie.
C'est le regret de ma vie, c'est de ne pas avoir un garçon avec qui je peux partager... je sais pas, les discussions de bonhomme, quoi. Le sport, la mécanique, les trucs de mec, quoi. Et donc, en fait, effectivement, je guette le moindre gendre qui pointe le bout de son nez. Évidemment, là, je me l'accapare, je le prends et j'en fais mon meilleur ami. Et vous imaginez ce qui peut se passer quand un père est très, très envahissant, très intrusif dans la vie amoureuse de ses filles. Donc, c'est très drôle. Et... c'est un scénario qui m'a fait beaucoup marrer et que je suis content d'avoir joué. Et le résultat me plaît beaucoup.
Alors Cadmerade, vous avez joué un tas de rôles au cinéma, à la télé, au théâtre. Sauf que là, vous incarnez un père de famille qui n'a que des filles.
Oui.
Mais dans la vraie vie, vous êtes le papa d'un garçon. Il a quel âge aujourd'hui ?
Bientôt 15, Nico.
Donc 15. C'est un adolescent. Ça se passe comment ? Ça se passe bien ? Vous avez du temps à lui consacrer entre deux tournages ? Vous arrivez à revenir à l'essentiel avec lui ?
Oui, je pense que comme tous les pères de famille, quoi, à un moment donné, on a notre vie professionnelle, alors qui est exceptionnelle parfois. Et avant tout, on reste des êtres humains, des pères, des mères, et les enfants, il faut les guider, il faut pas les lâcher, quoi. Donc, quel que soit votre boulot, quelle que soit votre absence, parce que moi j'ai souvent des absences. Mmh. Enfin après, c'est la qualité aussi qui prime, hein, plutôt que la quantité. Donc, j'essaie de donner l'exemple comme mon père m'a donné à moi. Exemple du respect, de ces petites valeurs-là que dans les yeux d'un enfant, c'est important, je crois.
Ah oui, c'est très important, c'est peut-être le plus important, Cadmerade. Vous allez passer vos fêtes de fin d'année en famille, j'imagine.
Ouais.
Mais quels sont vos projets pour 2019 ?
Après, j'ai pas mal de petits projets. J'ai la suite de Baron Noir qui va démarrer au mois de mai.
Mmh.
La troisième saison de Baron Noir.
Pour Canal.
Et comme je suis le maître des cérémonies des Césars cette année, bon, j'ai un petit peu de travail, voilà, donc j'ai déjà commencé à préparer, voilà, ça va être du sport, mais ça va être bien.
22
ça va être
bien, février.
Je suis impatient.
Mais oui,
22 février,
mais bon,
en direct sur Canal.
Vous avez un avantage vis-à-vis des autres collègues, on va dire, comédiens, c'est que la télé, vous la connaissez bien. Vous en venez de la télé.
Je viens de la télé, je la connais bien, mais c'est une télé différente, les César. C'est quand même une autre épreuve, ça va être du sport et je me prépare comme un sportif.
On s'en reparle d'ici là. Je passe de bonnes fêtes et surtout, vous êtes au cinéma à partir
de
mercredi dans Le Gendre de ma vie, une comédie avec vous, Cadmerade. Merci d'avoir été avec nous ce matin, Cad. Et
merci,
bonne continuation.
Nikos.
Bye bye.
Bonne journée à vous.
Au revoir.
Europe 1. Il est 8h41, Nikos.
À suivre, le trublion de la matinale, la revue de presse avec Nicolas Cantelou et son cortège de personnages juste avant le week-end. Un peu de sourire, un peu de rire, une bouffée d'oxygène. À tout de suite sur Europe 1.
7h, 9h, Nico Saliagas sur Europe 1.
Il est 8h43.
Nicolas Cantelou et Julie, la revue presque.
C'est presque de l'info, c'est la revue presque de Nicolas Cantelou. Allez Nico, ça va être à vous. Hein. On revient sur les principaux titres de l'actualité.
Génial. Oui, ma chère Julie, ce matin, l'actu surround, c'est la fin de la traque de Chérif Chekat, tué par les policiers après son attaque du marché de Noël de Strasbourg. Une traque qui se termine et qui, bien sûr,
Vive la France! Un pull terroriste, il fait moins le malin, la vedette!
Bonjour monsieur, je vous resitue pour nos auditeurs. Vous êtes monsieur Régis, vous êtes cheminot. Vous intervenez souvent dans cette patinale et on est ravis de vous recevoir sur Europe 1, car Europe 1 va plus loin. Vous êtes ici en tant que gilet jaune, vous êtes satisfait donc de l'action, pour le coup, du gouvernement, pour une fois?
Ah ben oui! Parce que maintenant... Qu'il n'y a plus de terroristes, nous les gilets jaunes. On peut recommencer à mettre le bordel samedi. Merci Castaner. Le Castaner du jeudi. Il nous aide à faire chier le Castaner du samedi. Oh la vedette lui aussi.
Voilà une traque qui se termine bien pour tout le monde du coup. Enfin, passons parler. À vous Julie.
Merci Nikos. Shérif Chekat est donc mort, le tueur a été abattu hier par la police après leur avoir tiré dessus. Christophe Castaner, vous êtes ministre de l'Intérieur, on vous accueille ce matin.
Oui, bonjour, Madame Julie, bonjour à Madame Crespo Mara. Oui, Monsieur Aliaga, soyez en paix, braves gens, je le dis à la population, moi, Christophe Castaner, premier flic de France, commissaire Castaner, le Jack Bauer du gouvernement, le Belmondo, disons-le, de la 5ème République, peut-on dire, oui, le Charles Bronson, républicain, l'inspecteur gadget de la place Beauvau.
Oui, bon.
Oui, peut-être pas le dernier, non. Oui, j'ai rendu la paix, je le crois, et la tranquillité à la nation. Ne me remerciez pas.
Très bien. Alors, vous si...
Si, en fait, remerciez-moi.
Okay. Alors, merci, monsieur le ministre.
Je vous en prie, merci, madame.
C'était du beau travail. Alors, il vous reste néanmoins un autre défi de taille hein, ce week-end, puisque les gilets jaunes vont certainement manifester à nouveau, hein, avec... moins de retenue que prévu, finalement.
Vous savez, les gilets jaunes ne m'impressionnent pas. J'ai éliminé Daesh, et je viens de le prouver.
D'accord.
C'est pas trois pouilleux fluorescents qui vont me faire flipper. Hein. En plus, j'ai fait comme samedi dernier, j'ai demandé que soient mobilisés tous mes jouets. Mes tanks, mes pistolets à eau pour arroser les crasseux, des hélicoptères... des membres du BRI, du RAID, du BST, de la brigade spécialisée de terrain, tous ces soldats que j'ai reçus également, un sous-marin caché dans les égouts.
Oui, bon.
En plus, la semaine dernière, je tâtonnais, je dois vous le concéder aujourd'hui, mais maintenant, j'ai tous les modes d'emploi.
Bon.
Merci Christophe, merci mon rentemplant.
Ah, on dirait qu'Emmanuel Macron veut vous féliciter, monsieur Castaner.
Oui, mon cri-cri. Oui, mon cri. Oui, mais à fond, moi. Bravo, bravo. Tu sais, tu t'améliores en ministre. Merci, monsieur le président. Tu t'améliores. Tu fais des progrès. Bientôt, on va pouvoir t'enlever les deux petites roulettes derrière. Vous vous rendez compte de l'effet que ça fait d'un coup en une semaine. Je file 100 euros de plus au SMIC et je dégomme un terroriste. Je sens venir la remontada dans les sondages.
Nous n'exagérons rien, hein, d'autant que certains gilets jaunes ont toujours l'intention de manifester samedi. Alors, est-ce qu'ils peuvent obtenir de nouvelles concessions de votre part, monsieur le président?
Écoutez, c'est une question épineuse. Beaucoup d'efforts ont déjà été consentis, mais même si je comprends la souffrance des Français... je ne me regardez pas comme ça, je comprends la souffrance des Français. Attendez, bon, écoutez, mettez mon disque, allez-y.
Oh là là.
Je comprends ceux qui souffrent. Je pense à cet homme qui ne pourra pas offrir à ses enfants les jouets qu'il voulait à Noël et dont les bambins ne s'amuseront qu'en mettant du sel sur des limaces. Et dont le frère alcoolique frappe ses neveux s'ils ne volent pas assez de sacs à main de vieilles dames pour payer le mauvais vin avec lequel il s'enivre chaque soir avant de se prostituer lui et sa femme du jambiste qui vit dans la niche du chien.
Ah non.
Mais bon, non, ils n'auront rien de plus. Hein. Je viens déjà de leur lâcher 100 balles, c'est bon.
En tout cas, ce succès redonne du crédit à Christophe Castaner.
Écoutez, arrêtez un peu.
Ah, le jaloux est là. Non.
Écoutez, vous en faites trop. Castaner par-ci, Castaner par-là. C'est un gros coup de cul, c'est tout.
Gérard
Collomb, allons. Trivial.
Dites-nous, comment vous jugez la gestion de cette traque par votre successeur? Dites-le
non,
quand même.
Non, écoutez, c'est toujours bien d'arrêter un terroriste, mais c'est la chance du débutant, vous savez. Il est tombé sur un crétin de niveau olympique. Écoutez, ouvrez les yeux. Le gars avait réussi à passer la frontière en taxi. Il était en Allemagne et il pouvait aller n'importe où Et non, le gars choisit de faire demi-tour pour aller pile dans le quartier où tous les flics de France avaient sa photo. Non, pardon, mais un terroriste comme ça, même ma petite nièce de 7 ans pouvait l'arrêter.
Bon, bah merci Gérard Collomb. Et à bientôt, on va parler d'autre chose maintenant. Ford a annoncé son refus de voir le groupe belge, un groupe belge reprendre son usine de Blanquefort. L'usine semble donc condamnée. Bruno Le Maire, vous êtes le ministre de l'économie. Bonjour, on vous écoute.
Je suis écœuré. Écœuré par l'attitude de Ford. C'est une tradition, une trahison, pardonnez-moi. Il n'y a pas de débat sur ce sujet. Ford ne veut que faire monter son cours de bourse. Ce week-end, vous savez quoi ? Je vais brûler des palettes.
Oh.
Et des pneus. Oui, monsieur Aliaga, dans la cour de l'usine Ford. Oui, il faut parler Ford. Là, je vais m'acheter un gilet jaune de ce pas et apprendre les paroles de Bella Ciao.
Pourtant, les ouvriers avaient fait des efforts sur leur salaire pour sauver leur usine.
Oui, écoutez, le site de Blanquefort a été trahi. Ford France ne les a même pas soutenus, ils ont été trop bons. Et Ford France, oui, excusez-moi l'expression,
Ford
les a...
de France.
Mais oui, pardonnez-moi d'être trivial ce matin aux trentaines, mais je suis remonté. Ford France les a baisés. Mais oui, ce sont les bons baisers de Ford France.
Oh là là, tout ça, ça.
Tout finit en musique, comme chez monsieur Abiker, qui roule en silence grâce à sa Lexus et non pas à sa Ford.
Ah, ça, il a bien tenu. Hein. Merci, monsieur le maire.
Tous les jours.
Allez, on va parler d'autre chose encore. Le cannabis thérapeutique pourrait bientôt être autorisé en France pour soulager les souffrances des malades ou des personnes âgées. On va d'ailleurs appeler un EHPAD pour voir comment la nouvelle est accueillie.
Maison de retraite et Pétunia, bonjour.
Ah, Christian.
Oui, ah, maman Julie. Ah, vous m'avez reconnu, ça me fait tellement plaisir. Comment allez-vous?
Ça va,
comment
Christian.
Comment va Gérard?
Ça va bien.
Oui, c'est pas dans le texte, pardonnez-moi, vous êtes troublé. Bon, enfin, bref, on va pas papoter, hein, on se rappelle en antenne. Je vous fais patienter en musique, ne quittez pas, chère Julie, hein.
Ne me quitte pas.
Pas.
Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Ne me quitte pas.
Merci de ne pas nous avoir quittés. Que puis-je faire pour vous?
Alors, on voulait avoir votre avis sur l'arrivée du cannabis thérapeutique. Comment est-ce accueilli par vos patients?
Alors, écoutez, quand j'ai appris que c'était autorisé, j'ai voulu rentrer tout de suite en contact avec des spécialistes pour ne pas faire n'importe quoi.
Mm-hmm.
Et coup de chance, en fait, mon neveu connaît bien des... Enfin, il m'a dit des genres de pharmaciens spécialisés qui vivent dans la cité du Bois Fleuri, à côté de chez nous. Donc, ils sont arrivés ce matin. Ils avaient leur casquette à l'envers. Ils ont commencé à tester le remède sur quelques patients.
Oula.
Oui,
alors
oui. Oui, c'est génial. Regardez-moi, Christian. J'ai aspiré un gros coup dans ce code médicamenteux. Et là, depuis, je vois des papillons fluorescents.
Oh là là.
Ils m'appellent parmi eux. Je suis un papillon, Christian.
Mon Dieu.
Non. Monsieur Giscard d'Estaing, vous n'êtes pas... Non, vous n'êtes pas un oiseau. Vous êtes un vieux président.
Oh, bah attendez, ménagez le
camp. Zion, Babylon System, Rastafari Zion. Waouh. J'ai envie de me mettre nu. Monsieur, allez tous en communion. Et les genoux, fais tourner le spliff.
Oh là là.
Ah, regardez-moi, je suis un oiseau, je suis un oiseau, je vole.
Oh là là, qu'est-ce que ça fait?
Je volais. J'ai du bon toshi dans ma tabatière.
Monsieur,
monsieur Giscard, je vous demande. Oh non, je vous demande de vous arrêter.
Ah bah tiens.
Ah bah tiens, pour une fois, c'est moi qui dis ça.
Bon courage, Christiane, hein, y a du boulot. Hein.
Nicolas Canteloup, Julie, bravo. Tous les matins, 8h40. Un grand bravo, un grand merci aux auteurs Philippe Cabrivière, Laurent Vassilian et Arnaud Demanche.
Europe 1.
Wendy,
oui,
au sommaire de votre émission à partir de 9h.
Eh ben, on s'autorise une synthèse avec vous sur le mouvement des Gilets jaunes. Que reste-t-il de ce mouvement alors qu'à l'acte 5 de la mobilisation demain, Monsieur Castaner le disait sur votre antenne, il préfère un acte de responsabilité. Mais il y a une empreinte morale, sociologique, politique très claire un mois après ce mouvement. Vous êtes 78% à nous dire pourtant sur Facebook que pour vous, les Gilets jaunes n'ont pas gagné. Mais ils ont pour eux remporté une bataille. Certains continuent le combat et veulent se structurer en liste politique pour les européennes. Entre sondages, communication et politique, on fait le tour de la question. Puis à 10h, on parlera des pubs. 50 ans de pubs à la télé et il y en a certaines qui nous ont marqué plus que d'autres. On fera le tour aussi.
Avec plaisir. À tout à l'heure. Wendy Bouchard à partir de 9h sur Europe.
À suivre l'essentiel de la matinale juste avant 9h et la météo avec Laurent Cabrol. À tout de suite sur Europe 1. Il est 8h54.
Europe 1.
À suivre l'essentiel de la matinale avec vous, Nico Saliagas, mais tout de suite la météo avec Laurent Cabrol. Alors Laurent, quel temps pour aujourd'hui? Du froid.
Le froid est là, nous le disons avec vous Céline depuis ce matin très tôt. Le froid est là, moins 8 à Luxeuil en ce moment encore, hein, ça ne bouge pas beaucoup. Moins 5 à Château-Chinon et à Fontainebleau, moins 3 à Lille, etc. Et nous avons du moins 1 à Lyon et Paris et du 5 degrés à Bordeaux. Je ne vais pas tout égrener, mais enfin, c'est vraiment très froid. En ce qui concerne la couleur du ciel, je regarde les cartes, ça s'améliore un tout petit peu sur Piémont Pyrénéen. Amélioration aussi dans le golfe du Lion et sur le delta du Rhône. Cela veut dire que dans le courant d'après-midi, il y aura là un temps beaucoup plus sec, mais qui restera bien nuageux, bien encombré. Il en sera de même sur la vallée de la Garonne et sur peut-être la région lyonnaise où les éclaircies seront hypothétiques. En ce qui concerne les autres régions, c'est-à-dire la majeure partie des régions de France, nous aurons un temps calme, presque ensoleillé, un soleil d'automne. Sachez que ce type de temps froid va perdurer demain et après-demain. Demain, attention, hein, nous avons du verglas assuré sur une bonne partie nord de la France, la partie nord-ouest. En ce qui concerne la journée du dimanche, les températures vont commencer à remonter. La semaine prochaine, ce sera beaucoup plus doux. Mais de tout cela, je vous en reparle tout à l'heure dans la météo de 10h avec Wendy Bouchard. À tout à l'heure.
Merci Laurent Cabrol, à tout à l'heure. On revient sur les moments forts de cette matinale avec vous, Nico Saliagas.
L'essentiel de ce 7-9, ce qu'il ne fallait pas rater, après la traque, le soulagement à Strasbourg.
Ils l'ont eu, les victimes sont vengées.
Honnêtement, on est vraiment soulagés qu'ils soient éliminés, donc on est tranquille, on peut dormir tranquillement. On se disait peut-être qu'il est dans le bâtiment, on ne sait pas. Et on avait vraiment peur.
Quand on se croisait, même les voisins entre nous, on se regardait avec la peur. Et là, le fait qu'ils soient arrêtés, c'est sûr, c'est un très très gros soulagement.
Sa cavale aura finalement duré 48 heures. Shérif Chekat a donc été abattu par la police hier soir dans le quartier de Neudorf à Strasbourg. C'est la BST, la brigade spécialisée de terrain, une brigade de proximité qui l'a neutralisé. Les explications de Laurent Combalbert, ancien négociateur du RAID, l'unité d'élite de la police nationale. Il était mon invité à 7h45.
On a montré que la réponse rapide dans une attaque était déterminante. Techniquement, c'est le premier sur place qui intervient quand on est sur un attentat ou sur une attaque chaude, avant qu'un groupe d'intervention ne soit sur place. Le délai d'emploi est normalement de 20 minutes, mais les policiers de terrain sont aujourd'hui formés à riposter dans ce type d'attaque, à protéger les citoyens. Et c'est bien que ce soit des policiers de la BST qui aient agi, parce que ça montre que tous les policiers, tous les gendarmes sont capables de riposter dans ce type de situation. C'est très sécurisant.
Après ce nouvel attentat, le débat est donc relancé. Que faut-il faire avec les fichiers S dont vous êtes parti, Shérif Chekat? Le dispositif est-il inefficace? Réponse du ministre de l'Intérieur, Christophe Castaner, ce matin sur Europe 1. Il était l'invité d'André Crespo-Mara.
Il faut avoir en tête que le fichier S ou le fichier FSPRT sont des outils, ce ne sont pas des décisions judiciaires. Et alors on peut très bien se dire, tiens, on va supprimer l'outil et tout ira mieux. Ce serait totalement inconséquent. C'est aussi bête que de penser que pour soigner une maladie, il faudrait casser le thermomètre. Moi, j'ai appris depuis tout petit que le thermomètre, c'était un indicateur d'une maladie. Et ensuite, il fallait traiter la maladie. C'est ce que nous faisons, notamment en intervenant dans les quartiers, en luttant contre la radicalisation. Parce qu'effectivement, la radicalisation peut conduire à des actes fous et à des actes terroristes.
Voilà pour l'essentiel de la matinale. Un grand bravo aux équipes éditoriales, aux journalistes, aux reporters, mais également nos équipes techniques en régie, à Romain, à Nicolas Baudin, dont c'est l'anniversaire. Bon anniversaire, camarade.
Bon anniversaire.
L'un des réalisateurs de notre matinale et d'Europe 1. Demain, c'est Bernard Poirette qui vous réveille dès 6h. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi à 7h. La dernière semaine avant Noël. Bonne journée à l'écoute d'Europe 1 avec Wendy Bouchard. Tout de suite, et le tour de la question. Julie est toujours dans la place avec nous. N'oubliez pas de prendre soin de vous ce week-end.
Et vous aussi, prenez soin de vous, Nicolas.
Merci,
à lundi.
Bien.